Vous écoutez
RMC.
RMC.
32 x 22, ça va faire 500. 32, non, 600. Allez, j'ai perdu.
C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but.
Fabinho qui est moins la lance de lancement. La rampe de lancement.
Pardon, Chris. Pardon, je t'ai critiqué. Je suis nul. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde. Sinon, on est un gros con. Voilà, je suis un con, Cristiano a marqué.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. C'est Génération After spécial Drôle de Dame, la seule émission à la radio qui parle pendant 2 heures de football étranger. Pour l'Espagne, une drôle de dame qui pourrait fêter à Madrid la 200e en Ligue des Champions de son grand ami Carlo Ancelotti, mais qui préfère rester à Paris pour un débat rillette ou pâté chez Estelle Midi. Bonsoir Fred Hermel.
Alors, rillette ou pâté, c'est une bonne question. Je dirais plutôt pâté, mais ça se discute. Oh là, chicos, quelle belle semaine quand même. Hein.
On va se régaler,
mon cher Fredo. Et toi qui avec la rillette et le pâté.
Et tu es concerné cette semaine, bien sûr. Pour l'Italie, une drôle de dame qui, comme Gigi Donnarumma, va sentir bien seul en cette semaine de Ligue des Champions, car l'Italie, désormais, c'est le jeudi. Bonsoir, mon cher Johan.
Bonsoir Nico, bonsoir tout le monde.
Définitif bien sûr, hein. Non, c'est un phénomène.
Non, mais ça fait un peu mal par rapport à la semaine dernière où il y avait 3 clubs en quart de finale.
Et là, 0. C'est bien de le rappeler. Pour l'Angleterre, une drôle dame qui, à défaut d'avoir été un grand joueur, maîtrise tous les codes du footballeur de haut niveau. Check, épaule contre épaule, main devant la bouche pour éviter le risque de la lecture labiale. Vous avez vu cette image, bien sûr. La rencontre avec son Lacazette, Julien Laurence, façon Deschamps. Ne lisez pas sur mes lèvres, s'il vous plaît. Bonsoir, Julien Laurence.
Salut Nico, salut à tous. Et pour l'explication, c'est que Alexandre Lacazette était remplaçant pour ce Manchester United Arsenal. Et on savait qu'il y avait des caméras tout autour. Et je voulais savoir pourquoi il était remplaçant, si c'était passé, les discussions, etc. Donc il fallait que personne puisse lire sur nos lèvres. C'est logique, c'est normal.
Oui, ses réponses, mais tes questions, c'est pas grave. On peut les lire, quoi.
Peut-être que c'était pas que des questions non plus.
D'accord, ok. Pour l'Allemagne, une drôle dame qui, chaque lundi soir, vit sa meilleure vie. 2 heures d'émission de football sans anciens joueurs consultants. Bonsoir, Paulo Breitner.
Bonsoir, mon cher Nico. Bonsoir tout le monde. C'est pas faux.
Ah, c'est pas faux, d'accord. Ça a beaucoup fait réagir Jérôme Rotten la semaine dernière, t'as vu?
Qui?
Ok, on avance. De quoi allez-vous nous parler ce soir, les drôles de dames? 15 secondes chacune. Je commence avec toi, Fredo.
Ah, bah, à votre avis, je vais vous parler du Barça, hein? Ah, bah oui. Alors, est-ce que les blessés seront de retour? J'ai quand même l'impression que 2 vont être titulaires. Enfin, en tout cas, c'est la petite rumeur qui est du côté de Barcelone. On parlera aussi de la grosse affiche de demain, avec le Real qui reçoit City. Est-ce que Bellingham, qui est le facteur différentiel par rapport à la saison dernière où le Real avait pris 4-0 là-bas à Manchester, est-ce que le fait d'avoir Bellingham change tout pour le Real? Et puis on évoquera bien entendu la finale de la Coupe du Roi avec l'Athletic Club de Bilbao qui a remporté la Coupe 40 ans après sa dernière victoire.
Polo.
Eh bien, évidemment, on va aller faire un petit tour du côté du futur champion de la Bundesliga 2024, le Bayer Leverkusen, s'intéresser à ce coach qui monte, à ce Bayern, se poser la question, est-ce que c'est une grande équipe ou c'est juste un momentum? Et puis, évidemment, on va aller faire un petit tour en Ligue des Champions avec une équipe qui n'est pas en grande forme, le Bayern Munich, qui va rencontrer les Freluquets d'Arsenal.
Johan.
On va parler évidemment des clubs italiens en Ligue des Champions. Ah bah non. On va évoquer le derby de Rome, évidemment. Beaucoup de choses à dire. Alors, pas forcément beaucoup sur le terrain. Pas mal en dehors, malheureusement, comme à chaque derby de Rome qui ne sait définitivement pas se tenir, clairement pas. On va évoquer aussi la stat assez incroyable qui concerne la Juve. Évidemment, c'est pas une stat très positive. On parlera d'un promu en série B dont on a déjà parlé cette saison.
Et Julien?
Alors nous on a eu un très beau Manchester United Liverpool hier, enfin très beau, ça dépend sur quoi on se base, on va en parler, bien sûr des 5 clubs anglais encore engagés en Coupe d'Europe, donc je suis pas trop au chômage encore comme Johan Crochet, 2 en Ligue des Champions, 2 en Europa League et bien sûr le Aston Villa Lille en Conference League.
Et à 21h45, vous le connaissez le rendez-vous, vous appelez le 32-16, posez vos questions à Fred, Polo, Johan et Julien, c'est le cadre des auditeurs avec les drôles de dames. À 22h bien sûr, l'after avec Gilbert Bribois. Bonsoir Gilbert.
Salut à tous, Daniel Riolo, Florent Gautreau ce soir dans l'after. On va parler Coupe d'Europe nous aussi, mais du point de vue des clubs français, évidemment. Le PSG sera au programme, Daniel veut se projeter vers mercredi et la compo parisienne. Faut qu'on décrypte également la stratégie des ultras parisiens, leur banderole. Voilà, c'est l'invention du week-end, hein, des ultras qui sortent des banderoles ultra positives. On n'est pas habitué, donc faut qu'on explique. Et puis l'OM qui va pas fort. L'OM qui joue contre Benfica jeudi, quel est le problème? Et puis on va voir qu'il y a aussi le problème à Benfica. Donc ça c'est quand même intéressant, comme dirait Polo. Et puis Monaco et Lille, le podium des quatre est-il désormais fait en Ligue 1? On en débattra tout à l'heure de 22h à minuit.
À tout à l'heure Gilbert pour l'After. Je vous rappelle qu'on est également en direct, hein, vidéo sur la chaîne YouTube de l'After, @after-foot, pour nous voir, vous abonner, commenter, poser vos questions. Et merci à tous les modérateurs, hein, qui se succèdent soir après soir, hein, pour modérer, c'est comme le nom de la fonction l'indique, les commentaires. C'est donc parti pour Génération After spécial Drôle de Dame. Grande semaine de Ligue des Champions, les gars. Voilà, on y est. Bon, ça a commencé en huitième de finale, hein, mais ça devient de plus en plus intéressant à fur et à mesure que la côte s'élève. Et ça démarrera demain soir avec deux affiches dont on va parler dans quelques instants. Mais d'abord, commençons par les dernières infos Barça, celles qui nous concernent, nous, Radio Française. PSG, FC Barcelone. Tiens, dis-moi, Fredo, d'abord, le Barça, ou le CM du Barça, le community manager, ils semblent bien s'amuser en ce moment. Ouais. La Joconde avec le maillot du Barça. Un faux ballon dirigeable au-dessus de la Seine face à la Tour Eiffel. Ouais. Pourquoi pas? Est-ce que ça raconte un niveau de confiance peut-être du club ou...
Je pense que ça raconte une mauvaise évolution des clubs espagnols. Parce que le Real s'est mis aussi, avant le Barça et le Real qui sont quand même représentent comme l'aristocratie, hein, du football en Espagne. Les CM étaient très discrets, c'était vraiment très contrôlé. On n'entrait pas, voilà. On considérait que quand on est un grand club, on n'a pas besoin d'aller à la pêche aux followers comme ça, quoi, tu vois. D'accord. Et là, je critique le Barça comme je vais critiquer le Real. Depuis, il y a une sorte de voilà, on met de la créativité. Moi, j'aime pas trop.
Ils font ça. C'est terrible, ce mot. C'est du troll. Voilà, c'est l'air troll. Du troll,
ouais,
en fait.
Ouais.
On vient vous troller chez vous.
Je n'aime pas ça. Je pense que quand on est un grand club, on n'a pas besoin de ça. Je veux dire, quand tu suis les comptes du Barça, c'est parce que tu es intéressé par les infos directes du club qui vont être données par le Barça. Quand tu mets de belles photos, par exemple, ça, c'est bien, de belles photos, de belles déclats. Quand tu mets des bons extraits de conférences de presse, d'interviews après match, etc. Mais je trouve que ce genre de choses, c'est le Real s'y met. Je veux dire, c'est pas que le Barça, hein, mais c'est voilà. Et tout, en gros, moi je trouve que ça fait petit club quand
c'est
tu
pas
fais
la hauteur
ça.
De l'histoire de ces clubs.
Voilà. Moi, un jour, le Real, ils avaient fait un truc. Je dis non, mais c'est pas possible. Le Real a pas le droit de faire ça, quoi. Je me souviens plus, mais c'était petit bras, quoi. Voilà, voilà.
Ah, donc, après, c'est un peu de chambrage à l'ère moderne. C'est ouais, c'est de coutume, tu vois. Quel que soit le club, ça se fait. Nous en Italie, on a un peu ça.
Moderne,
on a un peu ça en Italie, justement dans la question de derby. Quand les compositions d'équipe sont annoncées, souvent la Roma et la Lazio ne citent pas le nom de l'autre club. Donc ils citent les compositions de l'adversaire. Donc par exemple, ils disent eux et rien d'autre avec la composition de l'adversaire.
Incroyable.
Et sinon, ils disent les autres. Ou l'adversaire.
Voilà. Ouais, non, bon. Parce que moi je trouve ça bête parce qu'en fait les clubs existent parce qu'il y a d'autres clubs aussi. La grandeur des clubs c'est aussi la grandeur des autres. Mmh. Et la Roma est grande aussi parce qu'elle a la Lazio aussi. Voilà. Et la Lazio existe aussi dans son truc.
Je sais pas, c'est la culture un peu italienne, mais de oui, chambrage et tout, ça me choque pas.
Mais que les supporters le fassent, ça me gêne pas. Mais que les clubs de manière institutionnelle
c'est pour
le fassent.
Manger à leurs fans.
Ben oui, moi je trouve que les grands clubs n'ont pas besoin de faire ça. Voilà.
Bon, voilà pour le débat réseaux sociaux, FC Barcelone. Bon, le Barça n'a pas joué ce week-end, ça c'est pas une info, on le savait. Le groupe a pu préparer tranquillement le rendez-vous Ligue des Champions. Certains en ont profité pour se tester, pour reprendre l'entraînement. La grande question, Fredo, ce soir que je te pose, c'est est-ce que Pedri et Frenkie de Jong seront aptes pour ce match, ce rendez-vous mercredi soir?
Et Christensen, parce que c'est important aussi. Alors, Pedri... On ne sait pas s'il sera du voyage. Il est possible qu'il soit du voyage, mais ça semble difficile qu'il soit titulaire ou même qu'il entre quelques minutes. Parce que c'est une blessure musculaire. On sait très bien que Pedri est très très fragile, musculairement parlant. Et donc, on ne voit pas comment on pourrait prendre un tel risque après deux mois d'arrêt dans un match aussi intense. Par contre, moi, ce qu'on me dit du côté de Barcelone, c'est que De Jong et Christensen devraient être titulaires. Et ça, c'est quand même important. Christensen avait un problème au talon d'Achille, je sais plus si c'est talon ou talon, enfin c'était pas très grave. Et puis De Jong c'était une entorse à la cheville, donc ça c'est pas voilà, on fait pas de rechute d'entorse à la cheville. C'est simplement une question de rythme. Parce que ça fait quand même près de deux mois qu'il était absent, donc Frankie de Jong a participé à, ils ont fait un match amical samedi au centre d'entraînement. Il a participé à ce match toutes les minutes, en fait. Donc ça, match complet. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Puis c'est un joueur tellement important dans un match comme ça. Donc on imagine qu'ils vont faire un double pivot avec Frankie de Jong et Christensen, en fait. Parce que Christensen, je vous rappelle que, qui est au départ un défenseur central, avec l'absence de Gavi, Chabi l'a fait monter d'un cran et il a apporté une certaine assise. Donc dans un match comme ça où le Barça joue à l'extérieur à Paris, on peut imaginer un double pivot Christensen et De Jong. Ensuite pour le reste, il y a un doute entre Rafinha et João Félix, mais on imagine que ce sera Rafinha qui est quand même beaucoup plus, on va dire, plus constant dans ses performances dernièrement que João Félix, qui est capable de fulgurance, hein, mais on le voit plus aujourd'hui comme un joueur qui de deuxième à partir de la 60e ou 65e minute, quoi. Mais sinon, moi, je peux vous donner déjà le 11 qu'on me transmet, moi, mais on va pas très 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 loin, hein. Ter Stegen, Koundé, Araujo, Kubarsi, Cancelo, Christensen, De Jong, Lamine Yamal, Gundogan, Rafinha, Lewandowski. C'est pas mal quand même.
Il y aurait une donnée importante aussi quand même qui nous a échappé, c'est que 7 Barcelonais seront sous la menace de suspension pour le quart de finale retour, hein, et pas des moindres. Hein. Il y a 3 titulaires en puissance, hein, Araujo.
Ah bah Araujo, c'est le patron de la défense.
Christensen bah, oui. Et Lamine Yamal, tout et simplement. Bah, s'ils prennent un jeu de notre pari, ils joueront pas le retour.
Bah, Lamine Yamal, il faudra qu'il contrôle ses nerfs, simplement, parce que s'il se prend des fautes, il faudra pas qu'il parle à l'arbitre. Sinon, c'est plus facile de se préserver. Pour Christensen et pour Araujo, qui ont un rôle défensif énorme, le risque est énorme, mais dans le jeu, voilà, c'est très difficile pour un milieu défensif ou un défenseur central dans un match à Paris où il y a un certain Kylian Mbappé de pas faire de faute et de pas prendre jaune. Donc là aussi, c'est une donnée. Mais après, enfin, c'est des joueurs qui ont l'habitude de ce genre d'événements. Hein, donc voilà. Après, c'est oui, mais c'est vrai que ce sont deux matchs, ça peut compter de la même manière que n'importe quelle petite blessure va compter. Parce que le match c'est mercredi et le retour c'est mardi.
Six
jours. Là aussi, c'est alors d'un côté comme de l'autre. Hein, c'est vraiment peu de temps. Hein, donc raison pour laquelle je doute que Xavi prenne le risque de faire jouer Pedri, quoi. Voilà, non, autant attendre. T'attends une semaine en plus, et puis Pedri sera plus utile pour une éventuelle remontada. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite au Parisien.
Bon, il paraît que la confrontation de ce PSG-Barça est regardée, scrutée par les Madrilènes et par le Real en particulier. Est-ce que c'est vrai?
Ah oui. Alors, je peux pas révéler, mais je sais qu'il y a des gens qui à l'intérieur du club disent, et dans des échanges disent, c'est le premier grand match d'Mbappé depuis qu'il est au Real. Et ça, il y a des gens au sein du club qui font des blagues là-dessus. Donc voilà. Et puis, bien sûr, parmi les supporters à Madrid, c'est évidemment que les Madrilènes vont être pro PSG. Alors que c'est pas un club qui est adoré, hein, pro PSG, mais parce que c'est le Barça en face, mais en plus parce que c'est Mbappé. Mais sincèrement, on sait qu'Mbappé doit encore convaincre des gens à Madrid depuis son refus d'il y a 2 ans de pas venir au Real. Il y a encore des gens qui ont besoin qu'Mbappé montre qu'il est prêt et qu'il est digne de jouer au Real. Franchement, s'il élimine le Barça en mettant 2 buts, ça va participer de son intégration rapide dans le cœur des madridistes.
Ce sera mercredi soir. On sera là pour le commenter, pour le débriefer dans l'after avec toi, Fredo. Dans un instant, on revient pour évoquer le clash demain entre City et le Real Madrid, qui devient un classique de cette Ligue des Champions. D'abord, je vous rappelle une chose, que cette semaine sur RMC, nous vous proposons de gagner l'expérience RMC Barcelone-Paris. Le 16 avril prochain, nous vous offrons le voyage et votre nuit d'hôtel, la rencontre avec les équipes d'RMC Sport avant le match et bien sûr votre place pour la rencontre. C'est le moment de vous inscrire en envoyant PSG au 732-16. PSG au 732-16. Votre place Barcelone-Paris se gagne uniquement sur RMC. Dans un instant, on revient avec les 4 drôles de dames pour évoquer cette semaine de Ligue des Champions et notamment, je le disais à l'instant, ce Real Manchester City. A tout de suite sur RMC.
RMC 20h-22h Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Johan Crochet, Fred Armel, Joël Laurence et Paulo Breitner, on est ensemble jusqu'à 22h. Hein, Génération After spéciale dans le Dame. Et largement Ligue des Champions cette semaine. Après PSG Barça mercredi, parlons désormais de Real Madrid Manchester City. Retrouvailles moins d'1 an après. Des demi-finales achevées par une gifle de City sur le Real. 4-0. Il y avait des demi-finales aussi la saison d'avant. Avec le Real était passé, on s'en souvient, on l'a vécu ensemble sur RMC.
De manière incroyable.
Extraordinaire. La défaite 4-3 au retour qui qualifie quand même le Real pour la finale. Tiens, Julien, à City, comment on aborde ce rendez-vous? Est-ce qu'on parle du passé? Est-ce qu'on l'aborde avec tranquillité, sûr de sa force? Comment on commente ce rapport de force à venir?
Ouais, plutôt sûr de sa force. J'ai trouvé Rodri et Pep Guardiola en conférence de presse aujourd'hui plutôt détendu, plutôt serein. Même si Guardiola a dit battre le Real Madrid deux saisons de suite de la façon dont on l'a fait la saison dernière, donc de refaire la même chose, ce sera compliqué. Je pense qu'il a raison. Mais Rodri a aussi dit on est super confiant de notre force et on est super confiant de la façon dont on va jouer demain contre cette équipe-là. Je pense qu'il y a aucun secret entre les deux. Guardiola a été à parler forcément en bien de Jude Bellingham par exemple, qui est une des différences par rapport à la saison dernière, mais même cette équipe de City, elle est peut-être pas au même niveau exactement, peut-être pas aussi forte que la saison dernière au moment où elle a joué le Real, donc au match retour à l'Etihad. Ça reste quand même une grosse machine, on l'a encore vu ce week-end. Le petit bémol, on va dire, c'est qu'il n'y a pas de Kyle Walker, et ça aurait été très bien contre Vinicius Junior d'avoir Kyle Walker au poste d'arrière droit. Et la deuxième, c'est que Nathan Ake a pas voyagé non plus, et que Guardiola est un petit peu incertain. Donc on pourrait avoir défensivement en tout cas quelques soucis côté City. Mais comme ils vont essayer d'avoir le ballon le plus longtemps possible, le plus souvent possible aussi, et qu'ils vont essayer de mettre cette pression là sans jouer trop non plus, parce que c'est au Bernabeu, je pense qu'ils sont assez sûrs de leur force.
Une question, Guardiola a l'embarras du choix pour notamment dans le rôle du numéro 10, soit De Bruyne, soit Foden en meneur de jeu. A priori, De Bruyne, titulaire?
Alors, je pense que les deux seront titulaires, mais le débat, la question la plus fascinante pour moi, vraiment, dans ce débat-là, c'est qu'on a vu Phil Foden en milieu de semaine marquer 3 buts dans le poste de numéro 10, effectivement, avec De Bruyne sur le banc, qui était juste mis au repos. On a vu ensuite De Bruyne être titulaire samedi contre Crystal Palace, avec Foden mis au repos en étant sur le banc et en y restant aussi. Et De Bruyne avoir faire un match exceptionnel, 2 buts dont le premier exceptionnel en pleine lucarne opposée, avec une passe d'aise ensuite aussi pour Haaland. Et forcément, soit tu peux les faire jouer avec 2-10, mais on a posé la question à De Bruyne après le match samedi et il a répondu, je pense qu'on peut jouer tous les deux en 10 dans cette équipe-là, sauf que Pep l'a jamais fait ou très rarement. Et je pense que si Guardiola le fait pas, c'est qu'il a une bonne raison de pas le faire, et c'est que je pense que ça rend ton équipe peut-être un tout petit peu plus ou moins équilibrée, on va dire, un tout petit peu déséquilibrée. Peut-être qu'à la perte du ballon, c'est un peu plus compliqué de les faire jouer les deux dans l'axe. Je pense que c'est peut-être ça aussi. Donc on aura De Bruyne en 10 et on aura Foden sur un côté, mais je pense que le débat est vraiment intéressant dans le sens où est-ce qu'à un moment De Bruyne a 32 ans, c'est le présent encore, mais ça va surtout être le passé bientôt pour De Bruyne, et Foden le futur sans aucun doute de cette équipe de Manchester City à ce poste-là de numéro 10. Rappelez-vous le temps où le Sylvain Ripoll anglais nous disait que Foden pouvait pas jouer numéro 10, pouvait pas jouer dans l'axe, ce qui était une hérésie totale. C'est pour ça d'ailleurs que c'est le Sylvain Ripoll anglais. Mais donc voilà, à un moment Foden sera le numéro 10 de cette équipe, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu en mets un à ce poste-là et tu mets l'autre remplaçant? Est-ce que tu mets Foden sur un côté, ce qui sera le cas demain, j'imagine?
Oui, c'est la logique.
Foden
oui.
Sur un côté, oui, mais tu perds beaucoup de son talent, forcément. Même lui il le reconnaît, c'est pas du tout la même chose quand il joue dans l'axe et quand il joue sur un côté. Donc voilà, ce sera intéressant de voir ce que va faire Guardiola demain. Rappelez-vous aussi, juste pour finir, que Foden la saison dernière ne débute aucun match dans la phase à élimination directe de City. Donc à un moment, c'est que Guardiola préférait De Bruyne en 10 et préférait d'autres joueurs de côté que Foden. Donc on pourrait aussi avoir Doku et Grealish sur les côtés demain avec De Bruyne en 10. Voilà, tout est possible, même si je pense quand même que Foden devrait débuter.
Quel est votre sentiment sur ce match? Je m'adresse aussi à Johan et à Polo. Ce Real City, ça commence demain soir à Santiago Bernabéu. Est-ce que le rapport de force vous semble plus équilibré que la saison dernière? Bon, je rappelle, un partout à la saison dernière, 4-0, nette domination, nette supériorité de City. Tout à l'heure, on parlera de l'arrivée de Bellingham, hein, qui peut aussi changer ce rapport de force. Polo, comment tu vois cette confrontation, toi?
Je vois comme ça sur le papier les Anglais favoris, mais j'ai une vraie question pour Fred et Julien. Ça va faire la troisième année à la suite que ces deux clubs se rencontrent. Ça sent un peu la Super League, ça. Et moi, comment les médias de chaque pays réagissent à ça? C'est-à-dire que, tu vois, moi, c'est déjà la troisième année. Ça me passionne pas plus que ça. Moi, je préfère que ce soit une fois tous les 10 ans, que ce soit les deux meilleures équipes du monde, comme le Real et Manchester, s'affrontent. Et puis comme ça, là, je trouve qu'il y a un côté Super League sans le nommer. Et je voudrais savoir si les médias de vos pays respectifs en parlent ou se disent encore. Vous savez, comme le PSG chaque année tirait toujours soit le Real, soit le Barça, soit tout ça, quoi.
Bah non. Enfin, en Espagne, c'est ce qu'ils veulent. D'ailleurs, vous savez que les gros clubs espagnols comme le Real, Barça sont les promoteurs de la Super League. Donc ils sont ravis. Et d'ailleurs, le discours qui est dit en Espagne, c'est de dire regardez, vous dites que regardez tous les clubs qui sont en quart de finale. Et ben, ce sont tous des clubs qui sur le papier pourraient être dans la Super League. Donc En Espagne, ils préfèrent ce genre de match à des matchs moins attractifs. Voilà.
C'est des affiches qu'on aurait pu presque pronostiquer au début de la compétition. Oui. Pas des affiches, en tout cas.
Comme grand club, il manque qui, là?
Non, mais là, la seule, entre guillemets, surprise, c'est le Borussia, et encore, au stade des quarts de finale avec des champions. Si, au quart de finale.
Oui, mais le Borussia...
Mais que le PSG, que le Barça soit là, rien à ne marre.
Il manque l'Inter.
Non, mais voilà,
l'Inter. Il manque l'Inter à la place de l'Atlético, c'est tout.
Ou du Borussia, effectivement, mais sinon, t'as... Voilà,
Arsenal.
C'est aussi ça la Super League finalement. Quoi.
Bah oui.
On a les équipes, t'as une marge d'erreur très très minime, comme au début d'un tournoi du Grand Chelem en tennis. Tu vois, je suis à la fin que tu vas retrouver en demi-finale. On est sur ce même format là aussi.
Oui, non, mais c'est pour ça que moi je vibre quand il y a des clubs italiens parce que forcément c'est ma culture et que l'année dernière j'ai vibré parce que il y avait beaucoup de clubs italiens et que j'avais envie qu'ils aillent loin et que voilà. Mais en dehors de ça, moi, la Ligue des Champions ne m'intéresse plus depuis très longtemps, en fait.
Ah, tout à fait.
Mais vraiment,
tout à fait.
Mais vraiment. Et moi, la compétition européenne où je m'éclate le plus, c'est l'Europa League.
Voilà.
Parce qu'il y a des affiches différentes, parce qu'il y a des clubs qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on n'a pas l'habitude de traiter, où il y a des choses à raconter. Parfois, il y a aussi des laboratoires d'idées dans certains clubs, ou sur du recrutement, sur des idées tactiques, sur des histoires même, liées à leur pays, liées à leur continent, liées à leur histoire, au rapport aux Coupes d'Europe qu'ils ont.
Et le vrai niveau d'un championnat se voit en Europa League.
Oui, le juge de paix, c'est le niveau du 6e des championnats.
Ça, je sais pas, mais en tout cas, moi, je prends beaucoup plus de plaisir hors club italien, évidemment. Je veux dire, l'année dernière, j'ai vibré parce qu'il y a beaucoup de clubs italiens. Mais en dehors de ça, moi, tu vois, les quatre matchs, je suis même pas sûr d'en regarder un seul. Hein.
Bah, ça me surprend. Bon,
je vais même rajouter quelque chose.
Oh, les dernières saisons ont offert du spectacle. Hein. Ouais. Peut-être pas la dernière, mais les précédentes. Oui, bien malgré le caractère prévisible des affiches en quart de finale ou demi-finale.
Mais moi, en fait,
c'est très très haut niveau. Johan.
Real City, ça fait 20 fois que je le vois. J'ai pas envie de le voir une 21e fois.
Ouais, mais tu vas le voir avec Bellingham cette année.
Ah, pas tant que ça.
Polo.
Oui, ouais, je rajoute autre chose, c'est que avoir les mêmes affiches chaque année, ça permet à une certaine corporation de ne pas beaucoup travailler. J'ai fini.
Ben Julien, t'en penses quoi? Pas de ce que dit Polo, mais bon, globalement, quoi. Sur le caractère presque, prévisible des affiches, là.
Typiquement, moi, demain, tu me dis, je te raconte n'importe quoi, mais il y a un River Boca à la même heure que Real City, mais toute la vie, je regarde River Boca.
Ok. Non mais j'entends, mais il ne faut pas non plus dénigrer ces affiches-là parce qu'elles
sont aussi. Moi, je dénigre rien, je dis juste ce que je préfère.
C'est magnifique.
Il n'y a aucun problème à aimer la Ligue des Champions.
Là, il part du snobisme, j'étais mon cher.
Pardonne-moi, mais moi, j'ai commenté pour RMC depuis le Bernabéu, il y a un fameux River Boca de la Coupe américaine, la Coupe américaine,
la Libertadores,
la Santander Libertadores. Je peux te dire que j'ai jamais vu un match aussi mauvais au Bernabéu techniquement.
Oui, voilà. Bon.
Moi, je veux bien les trucs. Alors, c'est le pire match que j'ai vu en 5 ans quand même. Hein. Ce match-là.
Mais que des nouvelles équipes arrivent au stade de la compétition et qu'on raconte les histoires de ces clubs-là, qui sont moins connus que celles du Real, du City, du PSG ou du Barça. Ça, c'est hyper intéressant en avant-match. Ouais. Ce qui est intéressant aussi sur les...
Et même pendant le match.
Oui,
t'es quand même content de voir
les joueurs. Non plus.
Là, il y a quand même. T'as vu la constellation de joueurs.
Mais
qu'il y a
en fait, mais en fait, il y a une différence, c'est que moi, j'aime le foot, j'aime pas les stars. Moi, j'aime le football.
Mais Bellingham n'est pas qu'une star.
Moi, je ne suis pas le football pour les stars. C'est pour ça que je regardais un match de D6 néerlandaise. J'ai aucun problème à le regarder.
Mais j'entends, mais c'est du spectacle, là aussi, quand même.
Mais je dis pas le contraire, mais je ne
sais pas voir Bellingham.
Respectez au moins mon avis.
Mais je le respecte.
Donc, moi, il n'y a pas de problème si vous voulez regarder Bellingham, Mbappé, Haaland, etc. Moi, je le comprends.
Parce qu'on aime regarder l'excellence et le meilleur du niveau mondial aussi, Johan.
Donc, moi, si vous me demandez devant quel match j'ai le plus d'émotion, c'est pas devant ces matchs-là.
D'accord.
Enfin, ni même d'intérêt d'ailleurs.
Là, moi, je comprends ce que tu veux dire, mais
c'est un peu radical.
En général, les meilleurs joueurs sont ceux qui jouent mieux au foot. Les meilleurs joueurs sont les plus techniques. Tu vois, ce sont ceux qui sont capables de faire des choses.
Ça, c'est la version individuelle du football.
Mais non.
Moi, j'ai vu des matchs du Real cette année, je m'éclate pas à regarder
les matchs. Mais c'est pas.
Et pourtant, il y a des grands joueurs. Hein.
Oui,
je m'éclate pas à les regarder. Je m'ennuie même très souvent en regardant le Real.
Mais je suis d'accord avec toi.
Tu t'éclates à voir ce que fait Mourinho. C'est ce que Mourinho met en place. Guardiola met en place. Vas-y, Julien, ton avis là-dessus.
Moi, je suis d'accord avec tout le monde. En fait, moi, je regarde tout. Je regarde la Division 6 hollandaise. Je regarde la Ligue des Champions. Je regarderai tout. Donc, pour moi, tous les matchs sont différents. Il y a toujours quelque chose à apprendre, même dans les gros matchs qu'on a vus 100 fois. Je suis d'accord avec Polo et Johan, bien sûr, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui partagent leur avis aussi. Mais je pense que quand même, malgré tout, il y a toujours quelque chose à apprendre, il y a toujours quelque chose de nouveau. Il y a un joueur, il y a une performance individuelle, il y a un truc collectif que tu vas voir, que tu vas aimer ou que tu vas pas aimer d'ailleurs. Hein, ça va dans les deux sens. Mais voilà, moi, je suis pour mélanger tout ça et tout regarder. Il faudrait qu'on regarde tout.
Mais moi, encore une fois, je regarde de tout. Mais juste là où je prends le plus de plaisir, C'est souvent.
Oui, mais demain, il n'y a rien d'autre, mon Johan. Demain, il n'y a rien d'autre. Donc, tu vas nous regarder avec les champions et puis voilà.
Ça va sans doute être le cas.
Non, il y a Suède-France féminin. Tu peux regarder aussi.
C'est vrai aussi.
Mais par exemple, Johan, Ancelotti qui s'est pris 4-0 il y a un an. Tactiquement, que va faire Ancelotti demain pour pas que ça se reproduise? Ça, c'est quand même intéressant à observer. Tu vois?
Ouais,
donc, je sais pas si on a le temps d'en parler maintenant.
On va développer. On fait une pause dans un instant.
Parce que ça aussi, il a appris de ses erreurs il y a un an. Mais ça aussi, c'était intéressant.
Ouais, mais tu peux avoir la même chose en Europa League avec d'autres équipes.
Ah, mais je dis pas le contraire, mais sauf que demain soir, c'est ce match-là.
Ouais, donc, bien voilà. Sûr.
Allez, pause. On revient dans un instant pour le jeu de débat. On parle du Real également, de la vitrine Bellingham, qui rend à Madrid ce duel encore plus excitant. Reste avec nous, les drôles de dames. La soirée est lancée en ensemble jusqu'à 22h. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Julien Laurence, Paulo Breitner, Johan Crochet et Fred Armel. On est ensemble jusqu'à 22h. On parle Real Madrid, Manchester City. Ce sera demain soir, 21h. Un match que ne regardera pas, peut-être pas, Johan Crochet.
Il dit ça.
On lui racontera, c'est pas grave.
Non, mais bien évidemment que je vais le regarder. Parce que voilà, mais en fait, juste le sens du truc, c'est que.
Mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Hein.
Non, mais parce que je vois dans le chat, ça fait débat, etc. Il y en a un qui dit Yo, crois plus au football et tout. C'est pas du tout ça.
Non.
Moi, je suis hyper enthousiaste sur plein de trucs dans le foot que j'adore, etc. Mais juste, à partir des quarts de finale des champions en 8e, il y a encore des oppositions qui peuvent être intéressantes, etc. Les phases de groupe, je regarde tout parce que j'adore. Moi, regarder Copenhague Galatasaray, j'adore. Regarder ce type de match.
Le Sheriff Tiraspol, qu'on découvre aussi.
Mais les quarts de finale qui sont globalement sur 10 ans à peu près toujours les mêmes, ça ne m'enthousiasme plus.
Moi, je réclame le retour du tirage intégral.
Exactement. Voilà. Mais c'est pas possible.
Dès le départ.
Possible parce que les télés vont plus payer.
On est dans un système où il y a plus de qualifiés de nos cas des championnats qu'on représente en Ligue des Champions qu'en Europa League. C'est une absurdité. Le système pyramidal fait que on devrait avoir que deux clubs de première ligue en Ligue des Champions, deux clubs d'Espagne, etc. et non pas quatre et deux.
Comme on l'a connu il y a 30 ans, mon cher.
Voilà. C'est beaucoup plus intéressant. Et pour juste sur le débat, ce qui est intéressant, c'est pas le fait est-ce que les matchs sont intéressants ou pas. Je pense que c'est comment les matchs sont couverts. Je ne vise personne en particulier parce qu'apparemment il y a.
Ça tu parles quoi? Tu parles de réalisation? Tu parles d'image?
Alors dans la réalisation, il y a beaucoup de choses à améliorer.
Dans les commentaires.
Les commentaires, de la façon dont on est dans la société du divertissement. Tout à l'heure, vous parlez on est dans la société du divertissement. Enfin, moi, j'en ai marre d'avoir des commentaires de mecs qui s'adressent à des mecs de 10 ans. J'ai pas 10 ans, j'ai plus de 40 ans. Ça va, quoi. Tu vois, ou les réseaux sociaux, faut en vouloir quand même, au bout d'un moment. Mais,
et que des gens. C'est toujours pareil, la volonté de toucher ou de concerner le plus grand monde, voilà, mon cher Polo. Voilà, il y a de ça.
Il suffit de suivre les matchs sur RMC ou RMC Sport et les commentaires.
Ouais, tu mets le son de
ils sont très bien, voilà.
Tu mets le son de la radio aussi, pourquoi pas.
Bien sûr.
Donc, à Madrid, mon cher, on n'a pas oublié la claque hein, la semaine dernière, bien sûr, le 4-0. On n'a pas oublié également la qualif il y a deux saisons. On a commencé à en parler tout à l'heure. La différence, c'est qu'il y a Jude Bellingham qu'on pousse devant la vitrine du Real, hein, qui sera sûrement dans la une de tous les journaux espagnols quasiment.
Bah oui, parce qu'en plus, c'est un peu anglais en face, donc. Voilà, c'est logique parce que c'est vraiment la grosse différence par rapport à la saison dernière. La différence positive, la différence négative, c'est qu'il n'y a pas Courtois, il n'y a pas Militao. Et c'est quand même un gros problème. Mais je les sens plutôt optimistes à Madrid parce que bon, déjà la Liga, elle est déjà quasiment gagnée. Il y a eu la Super Coupe d'Espagne qui a été remportée. Après, Ancelotti a reconnu qu'il s'était planté il y a un an. Donc, il avait déjà dit il y a un an. Il avait fait une équipe ultra offensive. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était quasiment suicidaire hein, l'équipe qu'il avait fait pour l'Etihad. Là, on sent et moi les infos qui me remontent, c'est que ça va. Alors, au Real, ça n'existe pas de blinder les trucs, mais on sent que ça va être quand même beaucoup plus, notamment au milieu de terrain, beaucoup plus renforcé. Alors, il y a un doute. Plutôt, il y avait un doute entre eux. Nacho ou Tchouaméni en défense centrale, moi ce qu'on me dit c'est que ce sera Tchouaméni. Et c'est pas rien. C'est-à-dire que pour un match aussi important, le coach préfère Tchouaméni, c'est pas son poste, à Nacho qui est un joueur d'expérience à ce poste. Bon, qui n'est plus le joueur qu'il a été. Ça veut dire la confiance qu'a Tchouaméni, qu'Ancelotti en Tchouaméni. Et puis au milieu de terrain, on aura Valverde, on aura Kroos, on aura Camavinga, Bellingham qui... plutôt dans un 4-4-2 qui part mais qui repique vers le centre, voilà, et devant Vinicius et Rodrigo. C'est-à-dire qu'on est on a une équipe, on va dire, très équilibrée, notamment au milieu de terrain. Donc avec, parce que Bellingham aussi sait défendre, avec quatre joueurs au milieu de terrain qui savent aller vers l'avant mais qui savent tous défendre. Et ça, c'est quand même le signe que la leçon d'il y a un an, ce 4-0 a laissé quelques traces. Et puis bien sûr, il y a des joueurs qui sont dans une grande forme, Rodrigo. Bellingham n'est pas dans une grande forme. Et là, on l'attend. Voilà, c'est voilà. Il a ces dernières semaines n'ont pas été extraordinaires. Et là, on attend le retour du très bon Bellingham du début de la saison. Et puis, Vinicius qui est voilà, c'est un élément. Voilà, avec lui, tout est possible, quoi. Mais c'est vraiment le match de Bellingham et tout le monde. Parce que on sait que Vinicius peut être génial dans les grands matchs. On sait que Rodrigo peut être génial dans les grands matchs. Là, on attend vraiment que Bellingham, c'est le plus gros match qu'il ait à jouer depuis qu'il est au Real Madrid. Donc voilà, on va c'est un gros test pour lui demain à Bernabéu.
Julien, comment on va aborder ce match aller, hein, ce quart aller Pep Guardiola, avec un soupçon de prudence quand même, de maîtrise, en attendant de faire le boulot 7 jours plus tard.
Ouais, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Il a dit tout à l'heure, on peut pas faire que contrôler la rencontre. On parle beaucoup de contrôle en Angleterre parce que Arsenal le fait très bien depuis le début de la saison. City peut-être un petit peu moins bien que la saison dernière quand Stones venait au milieu de terrain. Stones a été absent, là il sera là pour le match de demain. Et il a dit, faut aussi qu'on les punisse, faut aussi qu'on aille marquer, qu'on aille se créer des occasions et tout ça. Donc je pense que c'est ce qu'ils vont faire en fait. Mais alors, par rapport à ce que dit Fred, la saison dernière, le match retour, c'est la même équipe qu'au match aller pour le Real. Je sais pas si c'était plus déséquilibré la saison dernière ou plus offensive. Je crois pas trop. Moi, je pense juste que le match retour à l'Etihad, c'était une masterclass, mais que tu peux pas refaire toutes les semaines non plus. C'était un match, cette première période, j'y étais. C'était un truc que j'ai jamais vu de quelque chose d'aussi beau finalement à voir. Et une équipe comme, aussi forte que le Real, être autant dominée sur 45 minutes comme ça, c'était incroyable, quoi. Donc, je pense pas que le City puisse le refaire ni à l'extérieur ni à domicile. Ce sera deux matchs qui seront différents. Il y a effectivement le facteur Bellingham à prendre en compte, tout à fait logiquement. Donc voilà. Franchement, on verra. Je pense que City changera pas sa façon de jouer. Je pense qu'on verra peut-être un Kovacic au milieu de terrain d'entrée. Parce que je pense qu'il va falloir solidifier le milieu de terrain. Mais à mon avis, ils joueront leur jeu. Et puis, et voilà. Et donc, quoi qu'il arrive, ils n'auront pas le bus comme on pouvait en parler après le match d'Arsenal, par exemple, ce qu'Arsenal avait fait à Manchester City. Ils joueront leur jeu avec beaucoup de mouvements, beaucoup de possessions, mais ils seront aussi, et ça on le sait tous, très vulnérables sur les transitions et les contre-attaques du Real. C'est là où le Real a une chance à jouer, une vraie chance à jouer, et c'est là où City a été vulnérable. C'est là où ils ont pris un but comme ça à Crystal Palace samedi, ils en ont pris un autre mercredi contre Aston Villa. C'est là où ces derniers temps ils sont un peu moins bons, ils ont du mal à contrôler le milieu de terrain pour ne pas justement s'exposer aux transitions offensives adverses.
Bah, c'est pour ça que le terrain du Real est quand même très intéressant pour ces transitions rapides. Quand tu vois Camavinga, c'est vraiment le joueur moderne de transition par excellence, quoi. Moi, j'aime beaucoup et vraiment, j'espère. Moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il va être titulaire. Je pense qu'il va être titulaire. Donc, mais ça, ça me paraît. Ancelotti, ça, c'est ça que tout le monde. Hein, donc, il sait comment prendre cette équipe. Après, est-ce qu'il va réussir à le faire? Ça, c'est autre chose. Je vais te poser une question, Julien. Parce qu'on parlait de Bellingham. Est-ce qu'en Angleterre, le fait que voilà, Bellingham joue contre City, tout ça, c'est un événement? Le fait que ce soit un Anglais, ou on s'en fiche un peu?
Non, pas du tout, non. Il n'a aucun lien avec Manchester City, quoi.
Non, mais c'est un Anglais.
Si je veux mettre Birmingham, voilà. Encore. Ah ouais, mais bon. Non,
c'est international anglais. Voilà, c'est la réponse de Julien.
Bon, ils applaudiront quand il sera. Mais quand il a le maillot de l'Angleterre pour l'Euro, ça va, ils l'applaudissent, ils l'aiment bien quand même.
Non, mais il l'aime bien même au Real Madrid. En fait, je comprends pas trop ta question, en fait.
Mais non, mais je veux dire, est-ce
que les médias utilisent
est-ce qu'on parle beaucoup de Bellingham
pour vendre le match, en fait, un peu ça, quoi. Voilà aussi.
Oui, non, mais ils en parlent comme ils parlent de Vinicius, comme ils parlent des autres grands stars. Mais oui, parce qu'il est anglais, forcément.
Je me suis mal exprimé.
Après, c'est quand même, tu l'as dit, c'est un grand. C'est surtout pour le match retour, à mon avis, parce que quand il va revenir en Angleterre, ce sera encore plus significatif, à mon avis.
C'est l'heure de l'après-midi de la soirée, elle est allemande. On envoie la musique, Polo.
J'adore. Udo Lindenberg, une légende de la musique allemande, 77 ans. À travers les temps difficiles, pourquoi j'ai choisi cette chanson? C'est tout simplement parce que c'est le retour de l'Abstiegskampf en Allemagne. Donc comment ne pas descendre en seconde division? Il se fait que la 28e journée nous offrait Mayence contre Darmstadt et Cologne contre Bochum. À Cologne, il y a eu un festival puisque Cologne, plus faible attaque de Bundesliga, trouve le moyen de marquer ses deux buts durant les arrêts de jeu. Et ça a coûté, bien entendu, la tête de Thomas Letsch, le coach de Bochum. Et donc, je voudrais dire aussi qu'on regarde toujours ce qui se passe en haut dans les championnats ou les qualifications européennes. Moi, qui suis un grand fan des championnats à 18 clubs, ben, chaque année, ça se bat dans des matchs à 6 points pour ne pas descendre. Et vous avez Cologne à 22 points, Mayence à 23 points, Bochum est à 26 points maintenant avec un seul point lors des 6 dernières journées. Donc, tout ça fait que ça va être fabuleux pour la fin de saison. Voilà.
C'est vrai qu'on se passionne souvent pour le suspense à haut de tableau, mais il est passionnant aussi en bas de tableau. En Italie, on en parlera aussi parce que on a quoi? On a 7 équipes qui sont susceptibles de descendre
en 5 points.
Voilà. Bon. En France aussi, on est concerné. Dans un instant, la suite de Génération After spécial Drôle de Dame. On va parler du derby romain qui a accouché d'une victoire romaine. Mais le spectacle, désolant parfois, c'était aussi en tribune. Reste avec nous, c'est Génération After sur RMC. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Yoann Crochet, Fred Hermel, Paulo Breitner et Julien Laurence. Dans un instant, on parle du derby de Rome, la Roma qui recevait la Lazio ce week-end. D'abord, un autre match qui intéresse Yoann Crochet justement, qui a débuté il y a moins d'une minute désormais. Match de Ligue 2 entre Auxerre et Troyes sous les yeux de Fred Joly. Bonsoir Fred.
Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans...
Quel enthousiasme. Tu les sens la montée, la Ligue 1. Ça y est, elle est au bout du chemin. Là.
Elle est pas loin. Faut pas en parler à Christophe Pélissier pour l'instant. Ça l'énerve un petit peu, mais ça se rapproche puisque là, j'ai Auxerre compte 4 points d'avance sur Saint-Etienne et Angers, deuxième et troisième respectifs. En cas de victoire, la Auxerre mettrait ses concurrents en direct à 7 points. Mais Pélissier ne veut pas trop entendre parler de montée pour l'instant. Il dit qu'il reste des matchs, il faut prendre son temps. Alors, on va profiter de ce derby. Belle ambiance, 15 000 spectateurs, ils sont 500 à avoir fait le déplacement pour ce derby de la Nationale 77, 80 km seulement entre les deux villes. 500 supporters troyens se sont installés dans la tribune visiteur. Puis il y a eu un petit peu de chambrage entre supporters puisque on a déployé un tifo du côté de la GIA sur lequel on pouvait voir ce n'est pas 80 mais un monde qui nous sépare. Et on voyait un supporter auxerrois face à 4 coupes dans une vitrine et un supporter troyen face à une vitrine où il y avait juste une toile d'araignée. Sa chambre, un tant soit peu à la baie des champs. 0-0 après 2 minutes de jeu.
On en a également sur un match de Serie A entre l'Udinese et l'Inter. Hein. L'Inter qui, en cas de victoire sur le terrain de l'Udine, compterait 13 points d'avance sur le deuxième. Là, c'est Milan. Un petit mot, Johan. L'Udinese, quand même, je regardais, champion d'Europe des matchs nuls. Hein. 30 journées, 16 matchs nuls.
Ah ouais.
Mais qui trouve le moyen d'être concerné par le maintien, bien sûr.
Très peu de qualité dans cette équipe et surtout.
Plotovin appréciera.
Non, mais il y en a. Quand je dis très peu, ça veut dire qu'il y en a quand même. Mais c'est clair que Thauvin est un des rares joueurs techniques de cette équipe. Mais vraiment, hein, c'est beaucoup de recrutement type Première Ligue. Mais parce que la stratégie de Pozzo, c'est d'emmener le plus de monde possible à Watford.
Et oui, c'est ça. Bon, Hassan Kamara est là également, un titulaire pour l'Udinese, l'Ivoirien. C'était donc le derby de Rome ce week-end. Roma-Lazio 1-0 pour la Roma, qui écarte quasiment... Le rival dans la course à la qualif pour Ligue des Champions, c'est pas terminé, mais l'écart est fait quand même.
Ouais, 9 points,
c'est énorme. Mais c'est pas vraiment le résultat qui fait parler en Italie.
Bah, disons que on a quand même parlé du résultat parce que ça fait partie des étapes de progression, notamment de la Roma sous Daniele De Rossi, parce que pour le moment il y a une très belle série. Alors il y a eu une défaite contre l'Inter, mais si les auditeurs se souviennent, la première mi-temps avait été d'un très bon niveau et ils menaient d'ailleurs face à l'Inter. Ils avaient joué aussi la Fiorentina où ça avait été très compliqué. Donc là on attendait un peu face à un gros et puis le calendrier de la Roma est très compliqué. Hein. Il y a Juve, Atalanta, Napoli qui s'enchaînent assez rapidement. Donc on attendait un petit peu ce match-là. De l'autre côté, il y avait le deuxième match en championnat d'Igor Tudor. Donc, il y avait aussi quelque chose à regarder du côté de la Lazio. Donc, c'est un match qui, quand même, en avant-match, en tout cas, passionnait tout le monde. Bon, le match n'a pas été génial, vraiment pas. On a eu des ingrédients classiques de derby. Agressivité, tension, beaucoup de duels, beaucoup d'intensité et non pas de l'intensité qui est faite par la rapidité d'exécution ou la rapidité de passe, mais beaucoup d'intensité qui sont faites par le déchet technique. C'est un peu différent. Il y a beaucoup de formes d'intensité dans le football. Là, c'était de l'intensité par les déchets techniques et je récupère et tu récupères et je récupère et tu récupères. Donc, ça n'a pas été un grand match de football. Et d'ailleurs, c'est pas anodin que les grands joueurs techniques de ce match-là, que sont par exemple Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, côté Roma, Luis Alberto qui n'était pas titulaire, mais même quand il est rentré, a pas apporté grand-chose. Ces joueurs-là n'ont clairement pas brillé. Si vous regardez le match, les joueurs qui ont vraiment brillé, côté Roma, c'est plutôt des défenseurs. Et côté Lazio, il y a un joueur qui est
allie à la fois le côté technique et le côté physique, c'est Matteo Guendouzi qui a encore été une nouvelle fois le meilleur joueur de la Lazio sur ce derby romain. Il n'y a pas eu de, voilà, si on prend même en termes de grosses occasions, il y en a une pour la Lazio, grosse occasion ou pas, d'immobilier en début de match. Et puis la Roma, il y a le but et le poteau de d'El Shaarawy, mais c'est assez pauvre. Et évidemment, dans le derby romain, qui reste pour moi un des rares derbys en Europe, dans les quatre grands championnats européens, où il y a une espèce de tension incontrôlable, de rivalité incontrôlable, et de débordement incontrôlable. Vous prenez d'autres derbies en Italie, de type Milan, Gênes, bon, Turin c'est encore même un peu différent, mais Milan et Gênes, on est plus proche de derbies à la sauce anglo-saxonne. Mmh. Le derby romain est pour moi un des rares derbies de nos gros championnats qui reste en mode Amérique du Sud, avec tous les défauts des derbies en Amérique du Sud, avec cette rivalité qui est incontrôlable parce que il y a encore des incidents entre supporters de la Lazio et de la Roma le jour du match, en avant-match, pas loin du stade, on le sait, les zones traditionnelles, le Ponte Milvo, à chaque fois, vous êtes certain qu'il y a des débordements là, avec à chaque fois des descentes d'autorité où ils récupèrent des tournevis, des battes de baseball, des clés à molette, enfin, toujours d'attirail pour faire une vidange, mais pas pour aller au stade. Il y a eu aussi, et depuis quelques années, il y a une recrudescence, c'était très présent dans les années 90 côté Lazio. Juste pour faire très rapidement, la Lazio a toujours été dans sa courbe très à droite. La Roma a été dans les années 70-80 très à gauche. Il y avait une vraie opposition d'idées politiques.
Politique, bien sûr.
Sauf que depuis, la Roma est devenue quasiment aussi à droite que la Lazio. Il reste quelques groupes comme ça qui sont authentifiés plutôt à gauche, qui se disent apolitiques, mais on sait très bien que t'es jamais vraiment apolitique dans les groupes ultra, qu'il y a quand même une certaine dominance qui finit par ressurgir. Et donc, vous avez eu ce que j'appelle une nouvelle arrivée d'antisémitisme depuis quelques années, où un coup c'est les photos d'Anne Frank, un coup c'est Hitler avec le maillot de la Roma, un coup c'est alors c'est les supporters de la Roma qui font Hitler sous
oui c'est ça Roma, c'est pas une provocation de la Lazio, c'est ça
Anne c'est... Frank, c'était l'histoire de la Lazio qui mettait des photos d'Anne Frank avec le maillot de la Roma dans la courva de la Roma, etc. Il y a eu des banderoles aussi accrochées avant le match la veille dans certaines rues de Rome, etc. Donc on a ça aussi, on a manquait plus que ça, mais Radu, l'ancien joueur de la Lazio, le défenseur roumain, qui avait déjà lors d'un match fait un salut quand il jouait, il joue plus aujourd'hui, hein, mais quand il jouait au début des années 2010, je crois que c'était, il avait fait un salut romain devant la courva nord de la Lazio. C'est et à l'époque. On avait dit non, bah, la Lazio l'avait défendu
en disant non.
Pas le Di Canio évidemment.
Ouais, Di Canio aussi, mais Radu, les gens avaient dit non, mais il sait même pas ce que c'est pas grave.
Oui, c'est ça.
Il avait rien pris au final.
Mais je peux faire un commentaire polémique.
Alors juste fini sur l'histoire de Radu,
parce qu'il
était en courva nord pour le derby et il était avec un sweat aux couleurs de la Lazio avec SS Lazio. Je rappelle que SS, parce que c'est une idée reçue en France, c'est Società Sportiva, donc société de football, entreprise de football, donc ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer, sauf que SS était le SS de Società Sportiva, était designé.
C'est le graphisme du SS,
de la Waffen-SS pendant la Seconde Guerre mondiale.
Tout simplement. Donc voilà. Ouais,
exactement.
Un homme qui va en tribune avec la Cueva Sud et qui affiche.
Courva Nord,
ce symbole-là. Bon, Paulo, tu voulais réagir?
Ouais, en fait, moi, je plus sois à ce que vient de dire Johan, mais est-ce que chercher toujours à faire des footballeurs des gens parfaits, c'est pas la pire erreur qu'on est en train de faire, en fait, sur l'évolution de la société?
Ah non, mais là, on cherche pas. On parle pas de gens parfaits, on parle juste de gens qui n'affichent pas des symboles antisémites.
Oui, mais il n'y a pas que ça. D'entendre tout, si tu veux, c'est le contre le racisme de Maignan, c'est le contre racisme de Vinicius, etc. Moi, il y a des choses beaucoup plus graves. Johan vient de donner ce qui vient de se passer en Italie. Moi, je vais aller voir certains débats dans certains derbies en Allemagne, en ex-Allemagne de l'Est. Il y a moins de caméras que le derby de Rome. Mais il y a des choses qui sont, de mon point de vue, bien pires que ça. Allez voir ce qui se passe encore, ou même historiquement, les derbies entre le Rapid de Vienne et l'Austria de Vienne. L'Austria est un club, est une diva, comme on appelle, juif, contre le monde ouvrier, bien antisémite, du Rapid. C'est toutes ces choses-là font que ça existe toujours. Mais si tu veux, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'acte en lui-même. C'est ce que ça veut dire sur une société. C'est comment on réagit par rapport à ça. Et je trouve que, entre
la naphtaline, Julien va m'engueuler, que je vois en première ligue où il n'y a pas plus grand chose, etc. Et les écarts, quand je vois des clubs qui s'opposent à des clubs historiquement juifs où il y a des pancartes de Ben Laden dedans, on voit bien ce que ça veut dire. Il faut arrêter, c'est pas être pour ou contre Ben Laden. On voit très bien ce que ça veut dire derrière. Donc, et puis il y a une vraie culture. J'ai à la maison des livres là-dessus de sociologues qui écrivent. C'est très pointu, cette culture-là. C'est pas juste une.
Qu'est-ce que tu veux dire, Polo? Si tu veux synthétiser un peu.
Je vais dire, en fait, j'ai l'impression qu'on regarde un peu le haut de l'iceberg seulement, quoi. Oh, c'est pas beau, la guerre, c'est pas beau, etc. Faites l'amour, etc. Mais si tu veux, je pense que c'est un peu plus grave que ça. Et je sais pas si le derby de Rome, Johan le disait, je bois ses propos, de dire que c'est peut-être un des plus anciens derbys à l'ancienne, veut dire.
Ou un des plus sulfureux encore qui existe, ce qu'il voulait dire.
Même peut-être pas sulfureux, à l'ancienne, ce que c'est très politisé. Oui. Lorsque je regarde les joueurs de football aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est tous des robots qui disent tous la même chose, qui se mettent la main devant la bouche pour pas qu'on sache ce que l'autre doit dire, etc. Bah, je suis bien content d'avoir vécu les années 80 dans le football, même s'il était beaucoup plus violent. C'est-à-dire que moi, il y a un truc qui me perturbe là-dedans, de vouloir nettoyer. Enfin, si tu veux, la contrepartie aujourd'hui que je vois du derby de Rome, c'est de me proposer une société hygiéniste. Et moi,
ça me fait toujours très peur. Il y a des biais sulfureux avec débordements politiques racistes, antisémites, mais aussi les derbies dont Johan a parlé, passionné sur la base d'un antagonisme football, peut-être, et pas forcément politique, ou peut-être même sociale parfois aussi, quoi. Il y a des choses différentes. Je vois ce que tu veux dire, Polo. Tu regrettes le romantisme de certains derbies qui sentaient un peu le soufre, effectivement. Mais oui, là, Polo.
Des joueurs qui quittaient une équipe nationale. Une équipe qui quittait une équipe nationale. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un joueur qui quitte une équipe nationale?
Ouais, mais il y a tellement peu d'exemples aussi dans l'histoire. Ouais.
Mais il y en a. C'était avant qu'il y ait plein d'argent partout.
Bon, tu regrettes que les footballeurs soient peut-être moins politisés. C'est certainement ton propos, hein,
Je préfère qu'il n'y ait pas de mecs avec des symboles nazis dans les groupes ultra.
Une fois qu'on a dit ça, derrière.
Je comprends ce que veut dire Polo, mais entre l'hygiénisme.
Le problème, c'est que tu les retrouves dans la rue. C'est un monde qui se regarde son nombril. Ah oh bah c'est pas chez nous, c'est chez les autres.
Juste pour revenir sur le derby, ce que dit Dylan, donc pour Crochet, l'AS Roma est également antisémite. Il serait bien de réécouter un petit peu ce que j'ai dit avant de raconter n'importe quoi. Juste, si Dylan considère que quand des supporters de la Roma font preuve d'antisémitisme, il faut pas le dire parce que c'est bien trop joli de taper sur le voisin de la Lazio. Désolé, c'est pas mon propos. Donc il faut aussi dire que du côté de la Roma, il y a beaucoup de problèmes et de plus en plus d'une grande partie de la courbe à soude et qu'elle est très loin, très éloignée de ce qu'elle était auparavant. Parenthèse fermée, juste pour continuer sur le derby, il y avait quand même deux choses intéressantes aussi à voir. Comment De Rossi vivait le derby, parce que ça c'est intéressant, il avait beaucoup de mal à vivre le derby en tant que joueur, au point où Claudio Ranieri, un jour de derby, l'a sorti, lui et Totti, à la mi-temps d'un derby, ce qui est quand même quasiment impossible à faire. Mais Ranieri étant un supporter de la Roma, avant d'être un entraîneur de la Roma, lui s'était permis ce luxe-là, parce que De Rossi sentir le derby en Italie. Il ressentait beaucoup trop de pression et ça l'inhibait. Et ben là, il l'a géré impeccablement, très calme. On l'a même vu sur le but, la Roma en a joué d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'était l'homme le plus calme du stade quand Mancini a marqué. À la fin du match, il s'est laissé beaucoup plus aller à la joie, etc. Et dernière polémique en date, je finis vraiment court là-dessus, Mancini, buteur du derby, unique buteur, qui à la fin du match va prendre un drapeau aux couleurs de la Lazio dans la curva de la Roma, mais ce drapeau porte un rat et donc avait ce drapeau et l'agitait dans tous les sens, et ça fait polémique en Italie parce que on est à quelques mois d'un euro, que les joueurs de la Nazionale sont censés se comporter de manière correcte et représenter tous les clubs de la Lazio. Tous les clubs d'Italie, dont la Lazio, et c'est pas très bien vu, et peut-être que ça peut lui coûter l'euro du côté de Mancini.
Voilà pour le derby de la Roma. Reste avec nous dans un instant, la deuxième heure, les drôles de dames. C'est Génération After sur RMC. 0-0 entre OCR et 3 après 14 minutes de jeu. À tout de suite.
Génération After.
RMC.
Je ne donne pas de notes. C'est insupportable de donner une note. La Poste vient de voir, tu reçois un mail en disant faut le noter. Tu regardes un film, on te dit s'il a plu, faut le noter. Ben, allez vous faire boire, les gars.
Dans le nord de Londres, à Winchmore Hill.
Connais pas.
Il y a une phrase célèbre dans le foot.
Un frisson, c'est mon calame, allez, c'est. Ouh. Tu vois, c'est la différence entre les gens qui pratiquent et ceux qui regardent sur Google Crad.
Google Crad. 20h-22h, Génération After.
Nicolas
Jamain. Génération After, les drôles de dames sont là, comme tous les lundis soirs de 20h à 22h avec Fred Hermel, Julien Laurence, Paulo Breitner et Johan Crochet. Tiens, avant d'évoquer, c'est attendu à l'Arsenal, FC Bayern, le direct, la Ligue 2, AG Auxerre 3, Fred Joly.
20 minutes de jeu, 0-0, mais un bon coup franc pour l'AG Auxerre après une faute sur Gouzoul, titulaire dans la charnière centrale auxerroise, puisque Joubal, le capitaine brésilien, est blessé, touché au mollet, et sans doute le pied gauche de Hein pour tenter de frapper directement au but d'Alemda, le portier troyen. L'arbitre qui fait un petit peu la loi dans la surface de réparation, c'est assez compliqué. Il y a eu une belle frappe à De Perrin il y a quelques minutes, sortie des deux points par le portier troyen. Voilà une belle occasion cette fois-ci, c'est pour le pied gauche de Hein qui fait son retour. Il était suspendu lors du déplacement à Ajaccio. Ah, il essaie dans le mur, c'est mal tiré. La deuxième tentative de Perrin, ça passe largement au-dessus, 0-0 au stade Abbé Deschamps, entre 3 et Auxerre après 21 minutes de jeu.
Et toujours 0-0 entre l'Udinese et l'Inter après 20 minutes de jeu en Serie A. Alors, l'autre affiche demain soir des quarts de finale de Ligue des Champions. D'un côté, le leader de la Première Ligue qui n'a perdu qu'un match en 2024, Arsenal. De l'autre, une équipe qui a été battue 6 fois depuis janvier dernier et par un promu allemand ce week-end, Heidenheim, le FC Bayern. D'ailleurs, c'est marrant, là, je regardais tout à l'heure là, les cotes. Hein, parfois, je regarde un peu les bookmakers pour voir s'il y a une tendance. La cote du Bayern est étonnamment très élevée. C'est pas un conseil que je donne pour les parieurs, mais ça raconte peut-être ce que beaucoup pensent de du rapport de force attendu entre Arsenal, leader de PL, et le Bayern en difficulté en 2024. Paulo, est-ce que le statut de grand favori d'Arsenal te paraît à ce point évident?
Non, le grand, non, c'est le mot grand qui est favori, oui, sur favori, la tendance, oui. Sur ce qui se passe en
oui,
ce moment, sur l'histoire, pas du tout. Rappelons qu'Arsenal est pas si souvent que ça en quart de finale de Ligue des Champions, alors que le Bayern est sur les 13 dernières années, il y est 12 fois. Que les doubles confrontations historiques entre les deux clubs, c'est toujours le Bayern qui est passé. Que l'expérience est donc du côté du Bayern. Maintenant, la tendance n'est pas bonne, mais le problème, c'est toujours pareil. Au bout d'un moment, on va devenir c'est difficile d'expliquer l'inexplicable de ce qui se passe au Bayern Munich. Tu ne peux pas comparer ce qui s'est passé en première mi-temps de la deuxième lorsque tu vois le déplacement à Heidenheim et la prestation. Au début, tu sens bien que le Bayern n'a pas envie spécialement d'aller dans ce club champêtre de Heidenheim, qui est, même si c'est pas loin, dans le bas du Württemberg. Ils mènent 2-0 à la mi-temps, tranquille. Bon, voilà, le match n'était pas génial. On va prendre les 3 points, puis c'est réglé. Et puis, on a l'impression qu'ils sont pas sortis du vestiaire en seconde mi-temps. Et donc, c'est dramatique. Et on a une prestation dramatique de Minier en défense centrale. Dupa Mécano, c'est pareil. Ils ont quasiment les plus mauvaises notes de la journée en Bundesliga. Et donc là, tu affrontes Arsenal, évidemment, qui me semble le favori sur la tendance actuelle. Mais sur l'expérience, j'en sais rien. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'Arsenal ne va pas mettre une raclée au Bayern. Mais je ne serais pas surpris non plus qu'on me dise que le Bayern est en demi-finale après cette double confrontation. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes en face, parce qu'il y a il y a ces fameuses expériences, parce que, évidemment, en Allemagne, on se met en mode, comme Smodus, en mode de combat, parce que on doit sauver la saison. Il ne reste plus que ça, finalement, pour le Bayern Munich. Maintenant, si tu veux, ce qui est toujours très intéressant, c'est que tout le monde tombe une fois de plus sur Thomas Müller, ça sur Thomas Tuchel, ça c'est la grande spécificité et spécialité allemande. Mais une fois que tu vas un peu plus loin, tu dis mais c'est quoi cette équipe? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, je pense qu'on est dans la queue de la comète, c'est-à-dire qu'on a vécu une période depuis 10-15 ans qui est extraordinaire. On s'est trompé peut-être sur certains achats, on a trop gagné peut-être aussi. Et ce qui aurait dû arriver peut-être l'année dernière lors de la victoire, lors de la dernière journée en championnat, revient cette année en plein boomerang avec 16 points de retard sur le Bayer Leverkusen. Et donc, ça éclate au grand jour, avec des éliminations en Coupe d'Allemagne dont on n'avait pas l'habitude, etc. Maintenant, quand t'es le Bayern Munich... Moi, je cherche pas d'excuses, là. T'as pas le droit de perdre à Heidenheim. C'est un truc, ça existe pas, où ça arrive une fois tous les 30 ans et ça devient une crise. Donc moi, je m'intéresse plus à ce qui va se passer, si tu veux, cet été. Parce que je pense que le reset va devoir être très, très important. Et dans quel sens ça va partir, j'en sais trop rien. Mais en tout cas, ça va beaucoup bouger. Mais pour en revenir à la confrontation contre Arsenal, je dis pas que c'est du 50-50. Mais ça reste un monstre d'Europe qui va affronter une équipe qui monte, qui est très bien, qui est en train de revenir au premier plan du football anglais, mais faut-elle encore qu'elle le prouve au niveau européen.
Mais Julien, est-ce que tu es d'accord avec ça? Bon, je rappelle également le retour de Manuel Neuer, on pourra en parler tout à l'heure, mon cher Paulo, ça compte sa présence dans la surface de réparation et pour une défense chancelante, comme tu l'as décrit, celle de Kim Minier et Upamecano. Julien, est-ce que l'écart que certains peuvent décrire te semble excessif entre Arsenal et le FC Bayern?
sur le terrain, aucun doute là-dessus. C'est la meilleure équipe d'Angleterre. Thomas Tuchel l'a encore répété ce soir dans sa conférence de presse. Ils sont vraiment impressionnants depuis le début de l'année 2024 surtout, comme tu l'as dit. Ils ont cette capacité assez incroyable, je trouve, à pouvoir finalement jouer toutes sortes de football. Ils peuvent, on l'a vu contre Manchester City, on en a parlé d'ailleurs, on les a un petit peu critiqués aussi. Ils peuvent jouer très défensivement en étant très organisés et en faisant déjouer l'adversaire comme ça. Et même parfois, on l'a vu à Brighton aussi, samedi après-midi, où quand ils voulaient, ils jouaient avec 11 joueurs derrière le ballon et il se passait rien. Ils bloquaient toutes les lignes de passe, tous les espaces, ils contrôlaient tout sans avoir le ballon. Ils sont capables de contrôler le match avec le ballon et d'avoir un gros pourcentage de possession et de créer beaucoup d'occasions, et ils sont capables de jouer en transition. Ils sont capables de tout faire. Vraiment, pour moi, c'est une équipe qui est capable de tout faire. Ce qu'Arteta est en train de faire, qu'ils soient champions ou pas, qu'ils éliminent le Bayern et puis après qu'ils aillent plus loin en Ligue des Champions, je sais pas, et puis ça m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement de cette équipe et les progrès de cette équipe, et ce qu'il est en train de faire, c'est vraiment, vraiment assez exceptionnel. Il y a un facteur très important dans cette double confrontation avec le Bayern, c'est l'expérience. Parce que n'oublions pas que quand Arsenal va à Porto pour les huitièmes de finale aller, là-bas ils vont prendre une leçon d'expérience en Ligue des Champions. Et ils perdent 1-0 parce qu'ils prennent une leçon d'expérience. Parce que c'est une équipe qui, pour la plupart, alors d'accord, pas Gabriel Jesus, pas Zinchenko, pas Havertz, mais pour les autres, pour Saka, pour Saliba, pour David Raya, pour eux, c'est pour Ben White. Pour eux, c'est nouveau tout ça, la Ligue des Champions. Pour eux, c'est nouveau. Pour Arteta, c'est nouveau la Ligue des Champions. Avant, il l'avait connu, mais comme entraîneur adjoint de Pep Guardiola, c'est pas du tout la même chose. Et ça, le facteur expérience avec un match retour à Munich, je sais pas comment ils vont le gérer.
C'est passionnant en tout cas. Tout va dépendre également côté Bayern aussi de la volonté de certains à hausser leur niveau de jeu. Mon cher Polo, tout à l'heure, on va voir l'émission, on parlait d'aller Leroy Sané. On a beaucoup parlé en début de saison qui était sur un tapis roulant en Bundesliga. Il semblait pas jouer au foot comme les autres. Lui, si on le retrouve demain soir, et ce garçon, j'en suis convaincu, est capable, hein, le garçon un peu capricieux qui est capable d'élever son niveau, ça peut changer la donne.
Et c'est terrible, parce que finalement, Leroy Sané, lorsque tu vois depuis en gros 24 mois le Bayern, c'est le facteur X de Bayern Munich. On parle beaucoup, à juste titre, d'Harry Kane, on parle justement de Moussiala qui prendra un jour les clés du Bayern, s'il reste au Bayern évidemment, on parle de l'ancien Manuel Neuer dans les buts, qui est toujours l'un des meilleurs gardiens du monde, ok, et on parle toujours de Leroy Sané soit en fabuleux, première partie de saison, soit d'une façon dramatique la deuxième partie de saison, et ça se répète chaque année. Et c'est comme les montagnes russes, c'est pas comme Quaresma, qui est un joueur que le joueur portugais que j'adorais, mais le gars il te faisait un bon match sur 20, tu sais, il était capable de te mettre un but on ne sait pas d'où et puis il disparaît pendant 3 mois. C'est pas des joueurs comme Sancho, qui pour moi est fini pour le football, alors que je l'ai adoré quand je l'ai vu gamin, alors qu'il est pas bien vu maintenant. Mais je ne sais pas comment analyser le cas Leroy Sané, parce que il est tellement capable d'élever son niveau, mais il avait les mêmes choses à Manchester City, il avait les mêmes choses à Schalke, nous le fire. Mais si tu veux, il avait l'excuse de la jeunesse avant. Maintenant, il a 28 ans, il est père de famille, et tu ne comprends pas, tu te demandes ce qu'il fait sur un terrain de football, comme tu te dis, mais il devrait être tous les jours sur un terrain de football. C'est fou. Moi, j'arrive pas mais en fait, ce qui est important, c'est pas ce que moi je pense de Leroy Sané. C'est que personne ne peut expliquer le cas Sané, Leroy Sané, en ce moment et depuis qu'il est arrivé.
Tout semblait bien aller pour lui. Il surfait sur une vague au début de saison. Il est devenu papa.
C'est extraordinaire.
La vie perso va bien. Il est dans un grand club.
Je l'ai interviewé l'année dernière, au mois d'octobre-novembre, je l'ai interviewé. On me dit, tu sais, Leroy Sané, il n'est pas facile en interview, etc. Ça s'est très bien passé. Bon, il n'a pas dit grand-chose, hein, comme tous les jours maintenant, il n'y a rien d'extraordinaire. Le gars, il était dans une super période. Je lui demande, mais comment ça se fait, comment ça se passe avec Moussiala, etc., sur le terrain. Vous vous rappelez le but que vous avez mis contre telle équipe. Pourquoi vous décidez de partir à droite alors que vous pouviez l'envoyer le ballon sur la gauche, etc. Et il dit, mais ouais, parce que je suis un joueur instinctif, tac, ça marche. Mais ça, c'est quand ça marchait. Aujourd'hui, tu lui poses la même question, je sais même pas s'il te répond, quoi. C'est spécial. Mais apparemment, il sera sur le terrain demain.
Eh bien, justement, ce sera une des attractions de ce quart de finale entre Arsenal et le FC Bayern. C'est parti pour la deuxième minute de la soirée, elle est espagnole. On envoie la musique, Paulo.
De niño bailaban canciones del moro. El baile venía de adentro y así se inventaba los moros.
Pedro Manuel Guerra, chanteur des îles Canaries, parce que je vous parlais d'un d'un monsieur qui est né aux Canaries. Très bon chanteur et surtout très, il a écrit beaucoup de chansons pour des gens encore plus connus que lui. Mais je l'avais vu en concert à Madrid. Et il avait chanté cette chanson-là qui s'appelle Le mari de la coiffeuse. El marido de la peluquera. Parce qu'il avait vu un film avec Jean Rochefort.
Super film.
Dans les années 90, super film. Et il avait adoré et il avait fait une chanson sur ce film. Pourquoi je vous parle du mari de la coiffeuse et pourquoi des, parce que, vous savez, Luis Rubiales, l'ancien président de la fédération, le désormais malheureusement mythique ex-président de la fédération. Voilà, il y a l'histoire du baiser forcé à Jenny Hermoso, la joueuse de la sélection espagnole. Et puis il y a aussi toutes les, il était en garde à vue la semaine dernière, pour toutes les histoires de soupçons de malversation à la tête de la fédération. Ben, vous savez qu'il a été joueur. Il avait des cheveux. Ouais, il y a 20 ans, il jouait à Levante. Et aujourd'hui, les images Panini, qu'on appelle les cromos en Espagne, de Luis Rubiales, un an à Levante, s'échangent à plus de 1000 euros. Sur les sites. Voilà. Parce que les gens trouvent ça rigolo de voir Rubiales, qui est quand même un chauve très connu, sûrement le chauve le plus connu d'Espagne aujourd'hui, avec des cheveux, et puis un joueur de foot. Voilà.
Elles sont proposées à 1000 euros, elles se vendent 1000 euros.
Ah non, mais elles se vendent au-delà de 1000 euros, c'est-à-dire dans les échanges sur les sites, etc., d'échanges entre collectionneurs, c'est plus de 1000 euros, alors que c'est quelqu'un de, il y a quelques années, tout le monde se foutait de Luis Rubiales. Hein. C'était un médiocre président du syndicat des arbitres, et ça ne valait rien, et voilà. Petite anecdote pas très drôle, mais non, montrer non, que le voilà. Football a aussi cette dimension-là, que aussi on peut avoir un type aussi méprisable que lui peut provoquer. On appelle ça le morbo en espagnol.
Dans l'image, prend de la valeur.
Le morbo, je ne sais pas comment on dit traduit en espagnol, le morbo, un peu le côté un peu sale des choses, tu sais, un petit peu pervers, un peu
cynique.
Un peu cynique, voilà. Le morbo, voilà.
Voilà, c'est la minute de Fredo.
La musique, la chanson est très bien. Pedro Manuel Guerrin. El marido la peluquera.
Dans un instant, dans le même talk, hein, le Bayer Leverkusen et Liverpool, la minute de Johan. Et aussi, soyez rassurés, supporters de Bilbao, on va parler de votre club également, le titre 40 ans après la victoire en Copa del Rey. Reste avec toutes ces générations after spécial dans le Dame sur RMC 0-0 entre Auxerre et 3-0-0 entre l'Udinese et l'Inter.
RMC 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Fred Armel, Johan Crochet, Julien Laurence et Paulo Breitner. La Ligue 2, le direct à GOCR 3. Avec Fred Joly. Fred, où en est-on ?
35 minutes de jeu, 0-0. La domination est clairement auxerroise, mais face au leader, eh bien, une équipe de 3 qui est au plus mal, enfin, qui n'est pas très bien, tout au moins avec cette 17e place. Premier relégable, et les Troyens seraient tellement heureux de partir au moins avec un petit point d'ici du Stade Abbé Deschamps face à cette équipe auxerroise qui multiplie les tentatives, qui multiplie les occasions, mais qui pour l'instant n'arrive pas à prendre l'avantage. Le score est de 0-0. On est à 10 minutes de la pause.
Et l'Inter. Et l'Udinese n'est plus qu'à une heure d'un 17e match nul en Serie A cette saison. Alors, parlons du Bayer Leverkusen, on en parle tous les lundis. C'est dur, je ne sais pas comment on peut en parler différemment à chaque fois, Polo. On ne sait plus trop quoi dire. Victoire 1-0 sur la pelouse de l'Union de Berlin. Alors, on est là face à une saison, sincèrement, les plus ahurissantes de l'histoire de la Bundesliga, si ce n'est la plus folle. Je ne sais pas si on mesure l'exploit d'une équipe jamais championne d'Allemagne dans son histoire, qui va peut-être battre non seulement le Bayern Munich avec quasiment 16 points d'avance désormais, mais en faisant mieux en termes de points que le plus grand Bayern de l'histoire.
Celui du Pankus, celui de 2012,
c'est complètement
2013.
Délirant.
C'est en fait complètement fou. Et autant on reste malheureusement toujours sur le fait qu'ils n'ont jamais perdu de match, aussi bien toute compétition confondue. Mais en fait, on ne se rend même pas compte de ça. Ils ont juste laissé 4 matchs nuls de toute la saison en Bundesliga. C'est-à-dire que, à la rigueur, les 16 points contre le Bayern sont anecdotiques. Et c'est pour ça que parfois je défends Thomas Tuchel. Thomas Tuchel est en avance sur le Nagelsmann de version l'année dernière ou des époques précédentes. Donc c'est toujours assez spécial. Mais c'est vrai que 24 victoires, 4 matchs nuls, une façon, lorsqu'ils ne jouent pas spécialement bien, de faire exploser toujours les adversaires qui se retrouvent comme l'Union ce week-end à 10 au bout de 45 minutes et durant les arrêts de jeu. Ce Bayern, alors la question du Bayern doit se poser, est-ce que c'est une grande équipe ? Est-ce qu'on a un grand coach en devenir ? Je le pense, lié évidemment aussi à sa grande expérience de joueur, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est quand même un compétiteur, qui aime gagner, et je pense qu'il arrive à transmettre ça à ses joueurs, de ne pas refuser la défaite, c'est ce qui s'est passé plusieurs fois cette saison, soit en allant chercher des matchs nuls, soit en allant gagner des rencontres lors des arrêts de jeu, c'est quand même assez extraordinaire. Je rappelle, le week-end dernier, lundi dernier, on disait que sans les arrêts de jeu, Leverkusen n'aurait que 6 points d'avance sur le Bayern. Là, ils en ont 16 maintenant. Donc c'est quand même assez impressionnant. Moi, ce que je vois, c'est aussi les concepts ou les principes de jeu de Xabi Alonso qui m'intéressent. C'est de contrôler la rencontre. C'est un truc qui, moi, m'impressionne. À chaque fois, il parle de ça. C'est-à-dire que le match peut être difficile, on peut avoir des temps faibles, etc. C'est cette façon de toujours devoir contrôler la rencontre. J'ai presque envie de dire la culture du football espagnol, finalement, hein, de faire circuler le ballon lorsqu'on y arrive, et puis de piquer, d'attaquer quand c'est le bon moment. Quand ça veut pas, on recommence, on repart. T'inquiète pas, ça va venir. Le temps, laissez le temps au temps. J'ai l'impression de guarder, que Xabi Alonso, à ce niveau-là, est assez impressionnant à ce niveau-là. Et surtout, peut-être, une chose en plus, c'est de se poser la question, est-ce que c'est une grande équipe? Et moi, je vais dire, un, Leverkusen n'est pas un grand club, c'est un club que j'adore, qui a marqué l'histoire de la Bundesliga, c'est pas la question, et qui va la marquer évidemment cette année. Mais est-ce que les joueurs qui sont sur le terrain, excepté des joueurs en devenir comme Wirtz, excepté Boniface qui est en train peut-être d'exploser, excepté un Patrick Schick qui a eu une carrière un peu en dents de scie, est-ce que le milieu de terrain Granit Xhaka, Andrić ou Palacios, c'est un des meilleurs milieux de terrain d'Europe? J'en suis pas persuadé. Tous les joueurs ont augmenté de niveau avec lui. C'est assez impressionnant. Il y a l'explosion de Grimaldo, évidemment. Frimpong, ça reste aussi extrêmement montagne russe. Ouais. Il n'y a pas un grand gardien, Radetzky. Donc, est-ce que c'est une grande équipe? Moi, je pense que c'est un momentum qu'ils sont en train de vivre.
Ça, on saura la saison prochaine. Hein. Si on conserve l'équipe, on saura s'ils confirment ou si certains noms que tu viens de citer de joueurs arrivent à confirmer dans un club à un échelon encore supérieur. On pense à Florian Wirtz en particulier.
Ils ont battu personne en Europe.
Pour l'instant, ils n'ont battu personne. Mais bon, 41 matchs consécutifs, hein, et ils vont affronter West Ham, qui n'est pas non plus l'épouvantail le plus redouté en Ligue Europa. Julien, est-ce que tu imagines une seconde West Ham être le premier à faire tomber le Bayer Leverkusen cette saison?
Alors, on verra. Juste pour finir, il se rapproche du record, hein, du record absolu de matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, qui est de... Donc on a le Milan, le grand Milan de 91-92, 42, la Juve 43, le record c'est Benfica avec 48, donc ils sont vraiment pas loin. Hein, 40, tu peux aussi faire deux matchs de Ligue Europa sans perdre, par exemple, tu peux faire deux matchs nuls, tu peux aussi te qualifier encore. Une équipe de West Ham qui, vous savez, hein, je porte pas trop David Moyes dans mon cœur. J'ai un peu de mal avec cet entraîneur-là qui joue encore comme il y a 25 ans, alors qu'il a des joueurs comme Paqueta, comme Bowen, comme Kudus qui sont des super joueurs. Donc à mon avis, c'est pas à mon avis, sur le papier, le Bayer est favori, il y a aucun doute là-dessus. Même si cette équipe de West Ham, elle peut être intéressante en contre aussi, puisque de toute façon c'est comme ça qu'on lui demande de jouer. Mais ce qui est intéressant, surtout au-delà de ce match-là, c'est qu'entre le match entre Arsenal et le Bayern. Et ce match-là entre Bayer Leverkusen et West Ham, c'est peut-être là où se joue finalement la cinquième place en Ligue des Champions la saison prochaine. Exactement. Parce que si les deux clubs allemands éliminent les deux clubs anglais, après, c'est donc ce qui se passera ailleurs, etc. Voilà, mais ils auront pris, les Allemands, un gros avantage sur cette cinquième place
pour la saison prochaine. En face de poule de la prochaine Ligue des Champions.
Exactement, avec les Italiens, tout à fait.
Tout à fait. Un mot sur Liverpool quand même, parce qu'on en parle là dans le chat de la chaîne YouTube de l'After. J'imagine qu'on a peur à Liverpool de que ce nul face à Manchester United fasse date à la fin de saison. Je rappelle que Liverpool a arraché le nul grâce à un penalty de Salah de partout sur la pelouse de United. Ils ont perdu la tête, c'est les Reds, à 7 journées de la fin. Trop tôt pour dire si ça aura des conséquences sur la course au titre. En tout cas, ça a mis un petit coup.
Oui, ça a mis un petit coup, forcément. Alors Klopp essaie de rester positif après le match en disant voilà, on a un point de plus que ce matin. Il avait raison, bien sûr. Sauf qu'ils auraient dû en avoir trois de plus. C'est un match qu'ils doivent jamais, ils doivent jamais faire match nul. C'est un match qu'ils doivent gagner. Ils ont quasiment quatre d'expected goals. Ils sont largement supérieurs. Le match tourne finalement sur une erreur de leur jeune défenseur central, Kwanzaa, qui veut faire une passe à Van Dijk, qui est intercepté par Bruno Fernandes, qui marque un but somptueux, magnifique du milieu du terrain à l'aube, exceptionnel. Même si Rockin, après le match sur la télévision anglaise, disait il y a que Bruno qui aurait pu marquer ce but-là. Je suis complètement en désaccord avec Rockin, dans le sens, pour moi, à ce niveau-là, les joueurs du niveau de Bruno Fernandes peuvent tous marquer un but comme ça. Ils peuvent tous marquer du milieu de terrain quand il n'y a plus de gardien dans le but. On a vu par exemple, même hier avec Nottingham Forest à l'extérieur à Tottenham, Murillo, leur défenseur central brésilien gaucher, qui a presque marqué depuis son camp, pareil, un lob sur Vicario. Voilà, pour moi, c'est un but fantastique. Je ne veux rien retirer à Bruno. C'est un but somptueux, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais c'est un but qui, selon moi, aurait pu être marqué par d'autres joueurs sur le terrain. Des joueurs de ce niveau-là qui scannent, qui ont cette qualité technique, ils peuvent frapper du milieu du terrain et marquer. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai que le match tourne là-dessus. Et après,
Liverpool a deux occasions, ils prennent un but magnifique de Kobbie Mainoo, le prodige de United. Et voilà, le match se finit sur un score 2-2. Juste pour vous donner une petite stat qui finalement résume très bien, pas que ce match-là, mais finalement les trois matchs qu'on a eu cette saison entre Manchester United et Liverpool. On a eu donc le match nul à l'aller, le match nul au retour et la défaite de Liverpool en Coupe d'Angleterre 4-3 après prolongation il y a quelques semaines. Liverpool sur ces trois matchs-là a tiré 90 fois. Ils ont 80 frappes et ils gagnent pas un des trois matchs. Voilà, ils ont pas été en réussite sur les trois matchs. Ils auraient dû marquer plus. Ils ont pas été assez cliniques et efficaces. Et ça leur coûte effectivement assez cher parce que maintenant, comme on l'avait dit la semaine dernière, le favori de cette course au titre incroyable, c'est le premier. C'est toujours le premier, que ce soit Liverpool, City ou Arsenal. Le premier, ce sera toujours le favori. Et ben maintenant, le favori est passé de Liverpool à Arsenal avec, comme tu l'as dit, 7 matchs encore à jouer.
7 matchs à jouer. Moi, j'espère que lors de la dernière journée, on aura plus toujours un point d'écart entre ces trois équipes-là.
Imagine,
on offrir une dernière journée absolument extraordinaire. Liverpool qui jouera à l'Atalanta, hein, qui n'est pas mis en ce moment, mon cher Johan, on en parlera également, qui a été battu ce week-end à Cagliari. C'est l'heure de la minute italienne, justement. On envoie la musique, Polo.
Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.
Lucio Dalla, Nuvolari, qui est en hommage à un célèbre coureur automobile qui courait d'ailleurs en auto et en moto dans les années 20 et 30, qui a été champion du monde, qui a été un coureur très apprécié, très populaire aussi en Italie. Et ce coureur, est originaire de Mantoue. Pour parler évidemment de Mantova, dont on a déjà parlé dans une minute cette saison, qui est le premier club promu en Série B pour la saison prochaine, donc il est en Série C, il est promu en Série B. Et l'entraîneur de ce club est Davide Pozzanzini, qui est l'ancien adjoint de Roberto De Zerbi à Sassuolo et au Shakhtar. Et dans la même semaine, j'ai lu aussi une interview de Alberto Alequiliani. Vous vous souvenez de ce joueur formé à la Roma, qui a été à Liverpool chez Julien Laurence, à la Fiorentina, et qui est désormais entraîneur de Pise en Série B, et qui expliquait combien il a été aussi influencé par Roberto De Zerbi dans sa manière de voir le football, dans sa manière de l'enseigner à ses joueurs. Et on s'assuit aussi, quand Daniele De Rossi, beaucoup de paroles sur l'influence qu'a eu Roberto De Zerbi. Les deux s'adorent, s'entendent très bien, etc. Et donc c'est aussi pour raconter que la génération De Zerbi est en train d'arriver en Italie.
Ils sont combien en fait dans le siège de Zerbi là?
Ils sont
une colonie, c'est...
Ils sont beaucoup. Ils ont beaucoup d'idées et Mantova qui est en Série C, c'est sans doute l'une des équipes en Italie, toutes divisions professionnelles confondues, qui joue le mieux cette saison et avec des joueurs d'un niveau vraiment assez bas. Donc à suivre la saison prochaine en Série B, même si je ne suis pas certain que Pozzanzini poursuive du côté de, parce qu'il va être demandé, et peut-être même du côté de Sassuolo d'ailleurs.
En un mot, c'est où Mantoue?
C'est au sud de Vérone et au nord de Bologne. C'est en Lombardie, mais c'est au sud de Vérone. Et d'ailleurs, la situation est très sympa, c'est sur un lac. Et la ville est sur quasiment posée sur un lac. Donc c'est très sympa.
C'est chez Polo, je sais pas, tu habites à Mantoue.
Bah, la Lombardie, les Lombards, bon, c'est très bien le sud.
Ah d'accord, bien sûr, exactement.
Et donc Nuvolari, le titre de la chanson et le titre du coureur automobile.
Très belle chanson.
Oui, très, très très belle chanson.
Dans un instant, on y vient, on va parler de Bilbao, un sacré 40 ans après avec Fred, car c'est un événement en Espagne, bien sûr. Restez avec nous. Tiens, il y a eu un but entre l'Udinese et l'Inter pour l'Udinese qui mène 1-0. Et c'est la mi-temps, Fred Joly à Auxerre.
Exactement, la pause au Stade Abbé Deschamps, 0-0. Des Auxerrois dominateurs, mais des Auxerrois qui n'arrivent pas à marquer, comme souvent face à des petits à domicile. Ils ont du mal, les hommes de Pellissier, à faire la différence. Ils ont essayé, mais pour l'instant, 3 résistent. 0-0, c'est la pause.
Voilà, tout de suite pour Génération After, spécial Drôle de Dame sur RMC.
RMC jusqu'à 22h, Génération After.
Nicolas Jamin.
Avec Fred Armel, Johan Crochet, Paul Weiser et Julien Laurent, on sont ensemble jusqu'à 22h. Je vous rappelle que dans 10 minutes, vos appels, vos questions aux Drôles de Dames, le 32-16 est ouvert, Max est là. N'hésitez pas à poser vos questions sur les 4 championnats qui concernent le Drôle de Dames, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre et l'Espagne. Elles y répondront. Les questions, vous pouvez les poser également sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, @after-foot, pour nous voir, vous abonner et poser vos questions.
Un événement en Espagne. 40 ans après, l'Athletic Club Bilbao remporte un nouveau titre, vainqueur de la Coupe du Roi, la Copa del Rey, contre Mallorca. C'était samedi soir au tir au but. François Bessène, ami de l'After, contributeur de la revue et grand sympathisant de Bilbao, est avec nous. Salut François.
Bonsoir.
Tu rentres de Bilbao justement. Tu nous envoyais un mail ce matin. Si vous voulez, je serai dans les parages. Je peux vous en parler parce que j'ai vécu un week-end de folie. Tu voulais témoigner de l'effervescence, de la joie, l'alegría, on dit ça comme ça ?
Alegría.
Alegría à Bilbao. 40 ans, c'est long. Et donc, la joie était à la mesure de l'attente.
Alors, il faut préciser une chose, c'est que François était au stade.
Il était à Saint-Mamès.
Exactement. À Saint-Mamès. Mais le match avait lieu à Séville. C'est-à-dire qu'ils ont rempli deux stades.
Et attention, ils ont également rempli une fan zone à Séville.
Oui, avec 30 000.
Sans billets. 40 000 selon la presse basque. Ce matin, la presse espagnole dit 50 000.
Sans billets, des gens sans billets.
Sans billets. Les gens ont fait le voyage.
En sachant qu'il n'y aura pas eu de billets.
Exactement, ils savaient qu'ils n'auraient pas de billets. Bah, c'est fou. J'avais envie d'apporter une note positive. Le football que autour de la table nous adorons tous, c'était beau, c'était du football populaire. C'est-à-dire que depuis, allez, je pense Fred que tu ne vas pas me contester ce chiffre, depuis 3-4 semaines, c'est déjà l'effervescence au Pays Basque.
Ah oui, bien sûr. Oui.
Et tous les balcons, tout la mairie, la Diputación, partout il y avait déjà des drapeaux de l'Athletic. Faut imaginer que sur le grand bâtiment en face de la mairie, il y a un maillot floqué du numéro 12 de allez 10 mètres sur 10 depuis un mois. Samedi, on est dans la ville, effervescence magnifique. Les enfants, les parents, les grands-parents, parce que le football est très culturel en Espagne, on n'insiste jamais assez là-dessus. Les
très familial,
femmes,
bien sûr.
Les oui. femmes, les oui, hommes, femme, tout le monde a le maillot de l'Athletic Club. Et c'est extraordinaire parce que c'était chaleureux, c'était familial. Les images de la finale à Séville sont magnifiques. C'est-à-dire qu'il y a des images comme il y avait un grand mariage à la cathédrale de Séville.
Ça, c'est très drôle.
Ceux qui ne sont jamais allés à Séville, allez voir la cathédrale de Séville et la Giralda. C'est magnifique. Sauf que les mariés sortent, ils avaient visiblement pas bien calculé leur coût, et dehors doit y avoir dans cette grande rue, allez, 5000, entre 5 et 10 000 Basques. Et évidemment, les supporters de l'Athletic, généreux comme ils sont, leur ont offert des maillots, des écharpes, et ils sont sortis dans la voiture, et le public chantait, les mariés sont de l'Athletic. Et ces images-là, on les a vues tout le week-end.
Ça, c'était avant le match, c'était avant la finale.
Alors, sans vouloir refroidir, parce que tout ce que tu dis est réel, il y a eu quand même des centaines d'ultra de l'Athletic et des centaines d'ultra de Majorque qui se sont tapés dessus. À Séville, et qui ont détruit un café et tout ça.
Il y a une recrudescence en Espagne, c'est dramatique.
Voilà. Et ça, parce qu'il faut le dire aussi, c'est ce qui s'est passé aussi. Ensuite, il y a eu beaucoup de réflexions en Espagne sur le fait que, je parlais de Rubiales, en fait, il a volé aussi parce que c'est beau une finale. Et la Supercoupe d'Espagne, c'est moins important, mais c'est aussi, elle joue en Arabie Saoudite maintenant. C'est-à-dire qu'on enlève du territoire espagnol la possibilité de jouer un match comme cela, quoi. Donc, il y a eu beaucoup de reproches aussi faites à la fédération espagnole en disant, parce que on sait jamais, peut-être qu'un jour il serait capable de délocaliser la finale de la Coupe, quoi. Malheureusement, elle est installée à Séville et c'est très bien parce que faut voir que tous les ans, il y avait un débat et des polémiques sur l'endroit où allait être accueillie la finale. Donc, ils ont décidé pendant 5 ans, là, que ce sera à Séville. Et au moins comme ça il n'y a plus ces débats éternels. Mais c'est vrai qu'il y avait... Alors moi j'étais assez surpris du nombre de supporters de Majorque. Mais c'était rempli, impressionnant. C'était très, parce que c'est un petit club, hein, voilà. Et puis c'est pas, au Balears, il y a pas l'effervescence qu'il peut y avoir au Pays Basque pour le football, même si c'est une tradition de football. Enfin, c'est incomparable. Mais
racontez-moi, ça représente quoi pour l'Athletic Club de Bilbao, ce titre 40 ans après, justement? Comment on a vécu ces 4 décennies alors que c'est un club connu, populaire, à fort ancrage identitaire, culturel aussi. Comment ce club-là vit ça et qu'est-ce qu'il va en faire désormais maintenant? Parce que là, je le dis, ils sont qualifiés pour la Ligue Europa, évidemment, automatiquement, mais ils peuvent aussi aller chercher la Ligue des Champions.
Ils ne veulent pas de la Ligue des Champions parce que la finale, les supporters. Oui. La finale de l'Europa League l'année prochaine.
Mais j'ai du mal à croire.
La finale de l'Europa League l'année prochaine est à Saint-Mamès.
Ah oui, d'accord.
Ah oui. Donc tout le monde en parle. Tout le monde dit non, il faut aller en Europa League.
Mais les dirigeants, quand ils verront ce que rapporte, les dirigeants, quand tu vois ce que rapporte la Ligue Europa et rapporte la Ligue des Champions, je pense qu'ils vont pas faire exprès.
Ils vont pas hésiter.
Parce que c'est vrai qu'ils sont juste derrière l'Atlético à 2 points, à 4e place. Ils sont à 5e, Atlético 4e. Donc il y a une vraie challenge. C'est 6 finales perdues pour l'Atlético depuis 84. Donc ça, c'était quand même terrible. L'ancrage, mais de toute façon, le cœur du football espagnol, espagnol est basque aussi. Voilà, enfin, le plus vieux club n'est pas basque, il est andalou. C'est le Real Creativo de Huelva. C'est un club qui a été créé par des Anglais qui exploitaient des mines. Je ne sais plus exactement quel minerai, mais enfin un minerai rare qui était dans le sud de l'Espagne. Mais c'est vrai qu'il y a une culture basque énorme. Par exemple, l'Atlético de Madrid a été créé par des supporters de l'Athletic Club de Bilbao. C'est pour ça qu'il y a les rayures rouges et blanches. Il y a la Real Sociedad qui est un club très important aussi. Mais c'est vrai que l'Athletic Club de Bilbao est l'un des rares clubs qui, comme le Real et le Barça, appartient à ses socios, je le dis souvent. Donc ça, c'est l'ancrage populaire. Il y a aussi le fait que c'est un club qui est riche. C'est un club qui a un très bon centre de formation, même s'il est vraiment concurrencé aujourd'hui par la Real Sociedad. Mais voilà, et vous avez des supporters de l'Athletic Club dont c'est pas que local, dans toute l'Espagne. Pourquoi ? Parce qu'il y a de grands joueurs qui sont venus de l'Athletic Club, parce que l'Athletic Club a eu des grandes aventures. Il faut dire les choses, sous franquisme, parce que l'Athletic Club est le club qui a remporté le plus de ce qu'on appelait la Copa del Generalissimo, la Copa du Generalissime. C'est pour ça qu'on dit que c'était le Rey des Copas, puisque c'était le club qui aujourd'hui, le Barça a plus de coupes que l'Athletic Club, mais sur la période franquiste, la Coupe du Generalissime, c'est l'Athletic Club. Donc il y a eu beaucoup de ferveur derrière l'Athletic Club, parce qu'il gagnait beaucoup de coupes, en fait. Et donc il a créé l'afición, il a créé des supporters dans tous les coins d'Espagne. Et puis ça a fourni des grands gardiens aussi. Une grande
légende
et voilà, de grands gardiens, des grands joueurs basques. C'est-à-dire que on n'imagine pas des sélections espagnoles sans des joueurs basques. D'ailleurs, ils sont aujourd'hui quasiment majoritaires dans la sélection actuelle.
Bon, voilà pour Bilbao. Écoute, on te souhaite la Ligue Europa et pas la Ligue des Champions, cher François, évidemment. Priorité Ligue Europa, une finale à San Mamés dans un peu plus d'un an. Merci d'être venu.
Ben, merci.
Dans l'after. À très vite. C'est Johan. Tout à l'heure, il m'a vendu au téléphone. Tiens, Nico, j'ai bossé avec Loïc Moreau, notre monsieur stat ici à RMC Sport, sur une stat hallucinante. Je dis quoi là, sur la Juve, évidemment sur la Juve. Quelle est cette stat? Je ne sais même pas de quoi il s'agit.
Bah, en fait, en regardant le match hier, on s'est tous rendu compte qu'en deuxième mi-temps, la Juve n'avait pas touché le ballon quasiment et que la Fiorentina avait dominé sans pour autant se créer d'ailleurs beaucoup de grosses occasions, même s'il y a un très gros arrêt de Chesney sur une frappe de Nico Gonzalez. Et donc, en allant checker les stats, j'ai vu une stat qui m'a semblé hallucinante. Alors le petit quiz, c'est pas sur la stat en elle-même, puisque la stat c'est 41, je vais y arriver, passe réussie par la Juve en deuxième mi-temps lors du match contre la Fiorentina ce week-end, c'est-à-dire moins d'une passe réussie par minute en deuxième mi-temps.
En ayant la possession quand même.
Ah non, bah ils ont fini la deuxième mi-temps avec 16% de possession la Juve. Il n'y a jamais eu, donc c'est là où Loric m'a grandement aidé, jamais eu un si faible total sur les 11 dernières saisons de Serie A de la Juve. Je parle de passes réussies, donc 41. Deuxième pire total de la saison en Serie A après Empoli lors de la deuxième mi-temps contre la Fiorentina, où ils en avaient fait moins. Cette saison dans le top 4 européen plus Ligue 1, c'est le sixième pire total. Est-ce que vous avez une idée des autres cancres qui ont eu très peu de passes réussies sur une mi-temps cette saison dans les grands championnats européens? Alors, je vous demande pas les matchs, je vous demande juste les équipes.
Les équipes?
Des équipes comme ça qui ont jamais le ballon.
Retafé?
Non. La Juve est pire que Retafé.
Putain. Alors là, c'est vraiment
incroyable. Il y en a chez toi, il y a pire chez toi en Italie?
Mais je l'ai déjà donné, c'est Empoli. Empoli, la Fiorentina. Ouais.
Et en Espagne, il y en a un plus?
Il y en a un en Espagne et tout. Et les,
est-ce que t'as pas Augsbourg en Allemagne? Non.
Non.
United et tout ça là.
Ils sont presque européens.
Sheffield, évidemment, deux matchs où ils font moins de 40 passes dans une mi-temps. Sheffield, il y en a deux. Sheffield, ils ont 4 matchs dans le top 10. Donc c'est une magnifique équipe de football.
Encore un en Angleterre?
Il y en a un en Angleterre, un en Espagne.
Nottingham Forest?
Non.
The best league in the world.
Ouais, non, Luton sûrement en début de saison.
Et non, même pas. Et mon cher Julien, tu as parlé de cet entraîneur tout à l'heure en disant que tu ne l'aimais pas beaucoup.
West Ham.
West Ham contre Brighton, 31 passes.
Incroyable.
En une mi-temps. Et le dernier club espagnol, c'est Grenade lors d'un match contre Las Palmas.
Ça, j'allais te le dire.
Donc voilà, donc la Juve est au niveau de Grenade, de ces clubs-là. De Sheffield.
Tout en sachant que les clubs dont on parle, West Ham, il jouait Brighton qui a une identité très forte. Sheffield, c'est contre Liverpool. Si vous suivez le classement, il y a des matchs contre Chelsea, contre Liverpool, contre Aston Villa. Donc des clubs où il y a des fortes identités. Mais il y a des clubs comme Liverpool et Chelsea. Là, on parle de la Fiorentina. Fiorentina, ils sont pas à ce niveau-là, en fait.
Je sais pas, c'est inquiétant pour ton championnat parce que ça n'empêche pas la Juve d'être troisième de Serie A. Ouais. Malgré
tout. Tu vois, Idir Fandolem disait Almeria, qui est dernier. Mais en fait, Almeria joue bien au foot. C'est pour ça que je pensais que ça allait être, tu vois, l'avant-dernier.
Oui, et désolé pour Augsbourg, mon cher Polo, hein, septième de Bundesliga. Je me suis un peu emballé. Tout de même.
Bah oui.
La minute anglaise, c'est parti.
Ça allait bien finir avec la grande musique quand même, les gars. Ed Sheeran, bien
moi, j'ai plus rien, je vais me faire allumer.
Quel génie. Quel génie.
Ah, génie, carrément. Ah ouais, non, génie.
Bah ouais,
non. Ah, tu vas le voir.
Sûr. Non, je plaisante. Hein. C'est surtout pour Polo, ça donne des boutons à Polo avant qu'il aille se coucher ce soir.
Je suis mort.
Ah, je sais que t'es mort, mon Polo. Désolé, mais j'étais obligé parce que tu vas comprendre pourquoi en fait j'ai choisi lui. Pas parce qu'on aime la chanson ou la musique ou le chanteur, hein, même si je pense que c'est quelqu'un de gentil. Mais c'est parce que ce week-end, samedi, on avait le derby de l'East Anglia, bien sûr, l'un des plus beaux derbys d'Angleterre entre Norwich et Ipswich. Le 120e de l'histoire, le premier remonte à 1902, un des plus vieux derbys aussi de l'histoire. Toujours fantastique, toujours intense. Et en plus important cette saison parce qu'en Championship, donc ils sont maintenant tous les deux en Championship. Et puis pendant longtemps, on les a eus, soit Ipswich était en 3ème division, Norwich après en première ligue. Donc finalement, ils sont un peu plus rares ces derniers temps. Mais parce qu'on a une vraie belle bataille pour Ipswich en haut du classement pour monter directement en première ligue. Ils sont au coude à coude avec Leicester et Leeds. Ça joue encore là en deux points pour les deux premiers qui monteront directement. Le troisième ira dans les playoffs, les fameux playoffs de promotion. Et Norwich, justement, est dans ses places des playoffs. Donc même si Ipswich ne finit pas dans les deux premiers, on pourrait avoir un autre derby, cette fois à Wembley, peut-être en finale, si les deux accrochent les playoffs. Donc voilà, c'était un match assez excitant que Norwich a remporté 1-0. Ed Sheeran, bien sûr, qui est un grand fan d'Ipswich. D'ailleurs, à un moment, il a dessiné un des maillots une année, il faisait même partie pour le dernier match de la saison de l'effectif, il avait son nom, enfin ça c'était n'importe quoi parce qu'il s'est pas joué au foot. Mais voilà, en tout cas, c'est le plus gros fan d'Ipswich, Ed Sheeran.
C'est quoi les couleurs du maillot d'Ipswich? C'est pas des couleurs un peu criardes, c'est pas du jaune et du vert, non?
Non, jaune et vert, c'est Norwich et Ipswich, c'est bleu,
oui, c'est Norwich
et blanc, voilà. C'est ça. Ipswich qui a une très belle culture de foot, hein, quand même, dans les années 80,
oui, rappelons, rappelle,
très
gamin,
grand club,
bien
avec
sûr.
Sir Bobby Robson, etc. Donc voilà. Ed Sheeran, c'est un peu moins bien que Sir Bobby Robson, mais voilà, ça reste le chanteur le plus amoureux d'Ipswich, en tout cas, mais qui a passé un mauvais week-end avec la défaite dans le derby.
Voilà, c'était la quatrième minute de la soirée. Dans un instant, posez vos questions à Julien, notamment, à Fred, à Polo, à Johan. Le 32-16 est ouvert. N'hésitez pas à venir dans Génération After. Questionnez les drôles de dames et également sur la chaîne YouTube de l'After. À tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec Johan Crochet, avec Fred Hamel, Polo Breitner et Julien Laurent. C'est le quart d'heure des auditeurs. D'abord le direct. La JOCR 3. Il y a un pénalty, mon cher Fred Joly.
Exactement. Tu arrives au bon moment pour ce pénalty après une main dans la surface de réparation. Il y a eu des débordements de Mensa qui a voulu centrer fort devant le but d'Alemdar. Et Zoukrou s'est jeté et a contré cette balle de la main. L'arbitre de la rencontre n'a pas hésité, monsieur Bastien. A aussitôt indiqué le point de pénalty et c'est pour l'instant Gauthier Hein qui s'est emparé du ballon, qui a le ballon sous le bras. Il va sans doute se charger de tenter d'inscrire ce pénalty et permettre à la GGCR de prendre l'avantage dans cette rencontre. Les Auxerrois qui ont buté sur une équipe troyenne, actuelle 17e, qui est en difficulté, qui est premier relégable, qui a besoin de points. Alors évidemment, dans ce derby, il faudra, et ça serait bien pour les Auxerrois en tous les cas, de s'imposer pour causer un peu plus l'écart sur Saint-Etienne et Angers. Alors que finalement, non, ce serait bien Ado Onewu qui va tirer ce pénalty. Hein avait le ballon sous le bras, finalement il a donné le ballon à son coéquipier Ado Onewu qui va s'élancer face au portier troyen. Il s'élance, il frappe, le contre-pied est parfait et la JOCR après 5 minutes en seconde période prend l'avantage, le leader mène 1-0 face à 3.
Tout à l'heure, 1-0 pour l'Udinese face à l'Inter après 48 minutes de jeu. Le carnet des auditeurs, les questions au drôle de dame, j'accueille Ismaël tout de suite. Salut Ismaël. Bonsoir.
Bonsoir.
Ça va, Ismaël? Oh, c'est pas un enfant, c'est un adolescent, Ismaël. Bienvenue dans Génération After, on va t'accueillir.
Merci.
Salut, Ismaël.
Et ta question est pour qui, Ismaël?
Je pour Fred Hamel.
Alors vas-y, il t'écoute, Fred.
Très bon choix.
Une question qui me frotte dans la tête depuis le début, depuis qu'elle battait à son départ. Je sais pas si Fred aurait une idée, quel numéro il aura au Real?
Très bonne question.
Quel numéro de maillot il aura au Real?
Alors déjà, je le sais. enfin j'en suis quasiment sûr. À ton avis, il va avoir quel numéro, toi? Ou quel numéro tu aimerais qu'il ait?
Le 7 est déjà pris, le 11 aussi, il y a le 10.
Et le 10 qu'il a aujourd'hui?
C'est Modric.
Ah voilà, et Modric va partir. Donc il y a de grandes chances que Mbappé, le numéro 10, ce qui est pas mal de porter le 10 au Real Madrid.
Ah oui, c'est pas mal.
Ah, voilà. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il aime beaucoup le 7, mais ce sera un affront fait à Vinicius que de lui retirer le 7. Donc ça va pas
plus,
se faire.
Hein, avant de lui prendre sa place à gauche, de prendre son numéro.
Mais donc voilà, non, c'est une très belle décision parce que, alors, je profite de la très bonne question d'Ismaël pour parler de la page de pub que le président du Dynamo Zagreb a acheté ce samedi dans Marca, une page entière pour convaincre Modric de rejoindre le Dynamo la saison prochaine, club où il est déjà passé. Voilà, donc le 10 sera libre, donc ce sera pour Kylian Mbappé.
Merci Ismaël. Supporter du Real, j'imagine, et de Kylian Mbappé. Tu peux nous rappeler quand tu veux, n'hésite pas. J'ai dit que tu avais 13 ans tout à l'heure, on me dit de le repréciser, je l'ai bien dit, Ismaël. Très bonne soirée à toi, très vite sur RMC. Thierry est avec nous au 32-16 également, salut Thierry.
Monsieur.
Salut Thierry. Ta question est pour qui, Thierry?
Pour Polo.
Alors, Polo.
Bonsoir Thierry.
Polo, j'étais à Fribourg samedi, comme j'habite à Strasbourg, je suis pas loin de l'Allemagne. Fribourg qui a pris une belle défaite 4-1. Ma question, c'est plus avoir ton avis sur l'avenir de Fribourg déjà pour cette saison qui risque de ne pas être européen. C'est une première depuis 4-5 ans et qui surtout va perdre, c'est annoncé depuis 2 semaines ou 3, son emblématique entraîneur Christian Streich. Voilà, un peu ton avis sur la fin de saison et sur le nouveau cycle qui va devoir s'ouvrir à Fribourg. Alors, l'année prochaine.
Fribourg est européen depuis 2 ans. N'oublions pas que Fribourg est une équipe qui est théoriquement en seconde partie de tableau. Donc ce qu'ils vivent en ce moment, c'est quasiment la meilleure période de leur histoire. Donc il faut le féliciter. Ça va être compliqué au niveau du calendrier. Évidemment, la raclée qu'ils ont pris contre Leipzig n'a pas aidé ce week-end. Et évidemment, ils vont perdre l'entraîneur emblématique de Fribourg, mais aussi d'Allemagne. Hein. Il faut voir ce que Marco Rose a déclaré après la rencontre, en disant que tu vas me manquer, etc. Christian Streich, évidemment. Donc ils vont prendre un coach qui s'appelle Julian Schuster, qui est un ancien joueur du club, qui n'a jamais entraîné. Il fait la coordination au niveau des scoutings, etc., notamment dans le club, et qui sera un petit peu le petit nouveau de Fribourg. Mais quand tu connais l'histoire du Fribourg, ça ne m'étonne pas, parce que ça garde l'histoire du club. Ils ont fait, je ne sais pas si tu as suivi, un recrutement pour l'instant très intelligent, puisqu'ils ont été chercher Dingshi, qui est prêté par Brême à Heidenheim pour 5 millions d'euros, qui est un joueur qui a explosé à 22 ans cette année. On parle aussi de l'arrivée d'Osterhage, qui est un joueur de Borum, qui a explosé au milieu de terrain. Le problème, si tu veux, c'est que s'ils sont pas en Europe l'année prochaine, eh ben il va sûrement y avoir des départs et le recommencement d'un cycle qui est un grand classique à Fribourg. Maintenant, n'oublions pas ce qu'ils viennent de réaliser, affronter la Juve l'année dernière, affronter West Ham cette année. Pour eux, c'est déjà beaucoup. Donc financièrement, aucun problème évidemment. L'équipe sera en Bundesliga. Est-ce qu'il sera en Europe? Gros point d'interrogation par rapport à Hoffenheim, Augsbourg notamment. Mais ne nous inquiétons pas pour Fribourg pour les prochaines années. Espérons juste que le coach Julian Schuster, le nouveau coach, réussisse.
Voilà Thierry. Bonne soirée à toi. N'hésite pas à rappeler quand tu veux. J'accueille Jean-Baptiste également au 32-16. Question pour Julien Laurence. Salut Jean-Baptiste.
Oui, salut. Salut Julien. J'avais une question concernant Manchester United. Je voulais te demander comment ça se fait que l'entraîneur Eric Ten Hag, il a toujours autant de crédit pour le poste d'entraîneur, parce que je trouve que la saison est décevante quand même depuis le début. Même si Manchester United a fait des bons résultats, enfin on va dire des bons matchs contre Liverpool, Chelsea, mais enfin c'est quand même très décevant je trouve, et j'ai l'impression il se passe rien, on va pas.
Non, t'as raison.
C'est bizarre quoi.
Ouais, moi je pense qu'il sera pas là la saison prochaine. Je pense qu'il va se faire virer par Sir Jim Ratcliffe et le nouveau directeur sportif. Même si il y a des rumeurs comme quoi il serait encore là, il a encore une année de contrat. C'est très décevant. Je suis d'accord avec toi. C'est pas au niveau de ce que ça devrait être. Ils sont pas complètement lâchés parce qu'ils sont sixième. Mais ils sont maintenant à 11 points de la cinquième place. C'est quand même catastrophique avec un match de moins sur Aston Villa. Mais quand même, ils ont une différence de but de -1.
Ouais.
Ils ont joué 31 matchs, ils ont une différence de but de -1. C'est incroyable quoi. Moi je trouve ça catastrophique la gestion de la fin de match à Chelsea jeudi soir. C'était une honte absolue.
Là, contre Liverpool, ils se font dominer du début à la fin. Ils s'en sortent avec un match nul. D'accord, très bien, c'est un point. Mais bon, dans le jeu, c'est quand même quatre vies. Ils ont beaucoup de blessures, faut le reconnaître. À ça, à Ten Hag, il y peut rien. Ils ont beaucoup de blessures, notamment derrière, en défense. Donc ça, c'est un problème. Ce serait un problème pour n'importe quel entraîneur. Mais je suis d'accord avec toi. Cette saison, c'est pour moi, c'est pas loin d'être un naufrage. Et pour moi, il peut pas résister à ce naufrage et à cette saison vraiment trop décevante.
Voilà, Baptiste, la réponse de Julien à ta question. N'hésite pas à revenir quand tu veux, le lundi soir notamment. Très bonne soirée à toi sur RMC.
Bonne soirée, merci.
Merci à toi, merci aux quatre drôles de dames d'avoir été là ce soir de 20h à 22h. Merci également à Bam Bam et Mac Delfino d'avoir modéré le chat de la chaîne YouTube de l'After. Dans un instant, l'After Foot justement avec Gilbert. Bonne soirée à tous sur RMC. Ciao, ciao.
Génération After.